Je crois que c'est à moi, je crois que c'est à vous, je crois qu'on va lire les journaux ensemble. Tais-toi toi, ça sera la musique de la pause café tout à l'heure. Si on fait une pause, comment ça va vous? En ce mardi 17 octobre, après un double stream hier, on est fou. Hier matin on a lu les journaux bien sûr ensemble. Vu l'actualité en ce moment, je pense qu'il faut mettre des mots sur l'actu et échanger ensemble et... parfois essayer de trouver des motifs d'espoir dans cette actualité dramatique et sinistre. Tiens, il y en a une botte qui continue à dire que mon invité de ce soir est le président de l'ARCOM, Roch-Olivier Maistre. Je vais aller chercher une live-botte, lui mettre une petite claquette derrière les oreilles. En fait, c'est moi qui mérite une petite claquette. Puisque c'est moi qui le programme, on va lui dire d'arrêter ça. Je m'apprêtais d'ailleurs à vous dire, Nightbot est formidable, un sens de la propos de dingue, je m'apprêtais à vous dire qu'effectivement, double stream hier avec la matinale hier matin, et le président de l'ARCOM, Roch-Olivier Maistre, qui était notre invité hier soir. En vrai, c'était sympa. Le micro de Roch-Olivier résonnait un poil, me dit « Renaud, je sais, j'ai passé ma soirée à lire, pour certains, pas tellement vos questions sur les médias et sur le numérique, mais sur le fait que... Dites donc, le micro de Roch-Olivier résonne un poil quand même. » Non, c'est pas le micro qui résonnait, c'est juste que, comme beaucoup d'invités non-streamers, il était trop éloigné de son micro. Voilà, il parlait comme ça, voilà. Et dans une pièce qui n'est pas travaillée, prévue pour le son, avec des choses pour absorber un petit peu, et ben du coup, ça faisait un son un peu éloigné. Donc j'ai rapproché un peu le micro, une fois, deux fois, mais à un moment je ne vais pas lui mettre sous la bouche quand même, et donc ce n'est pas le micro qui, ce n'est pas le micro qui faisait de l'écho, c'était tout simplement la position. Ces micros SM7B là sont très très bien, si on est tout près en fait, si on est tout près, et là on a une jolie présence, un joli son, et dès qu'on s'éloigne un peu, ça donne un rendu qui est... un peu moins sympa quoi. Voilà. On va parler de Bruxelles bien sûr, on va parler de la Belgique, j'enlève juste le petit bot qui nous dit que Roch-Olivier Maistre était notre invité hier soir. Hop, disable, hop, c'est parti. Voilà. Ça va vous? C'est chaud l'actu, t'as trouvé des sujets un petit peu légers? Oui, enfin des sujets. C'est vrai qu'en ce moment on a une séquence d'actu qui est pas... C'est pas grave, c'est comme ça. Donc oui, après vous connaissez la philosophie de cette chaîne, on met pas les mauvaises nouvelles sous le tapis, mais pas on n'est pas en mode autruche quoi. Mais de temps en temps, on essaie de trouver quand même quelques infos qui nous positives, je sais pas, mais qui nous changent les idées quoi. Bartval, je n'ai pas lu ton message. Il y a des gens qui savent déjà qui vient dimanche dans Simplay parce que l'invité a leak. Donc, je suis au courant de rien, moi. Je te dis, Arzen, bordel, tes études. Il y a Arzen qui dit, je te regarde en direct de l'amphi. Non, non. Ah, peut-être que le cours n'a pas commencé. Peut-être que le professeur n'est pas arrivé encore. Donc, non, mais non, hein. Bon, ça va, vous? Le Twitch de Pete, comment ça va? Merci pour le 7e mois d'abonnement, c'est beaucoup. Merci, Ross IRL, ça va être tout noir. Allflow 73, Nightroy 93, Joscal 25, Dio, Zefia, Petite Pocket, AKN, Tobit, Alex Papi, Kirill, Jean-Christophe G, Camille, Silicius, Hollywood, Trigger, quelqu'un, Lucien Ducasse. Je vais vous expliquer dans un instant pourquoi. Otherline, Space Nature, Footeuse 03, Matibouga, Panda, qui pue. Alors en fait ça c'était les subs d'hier soir, parce que vous savez quand je reçois un invité, ben souvent je suis pas tellement sur les subs, c'est bizarre, pendant que l'invité parle il nous explique des choses doctement et des choses très intéressantes, de l'interrompre et dire, hey, au fait merci Renifleur de paix, parce que j'ai mes petits pseudos préférés. Merci, Panda qui pue. Il est là, Panda. Merci, Tatouf m'étouffe. Enfin, vous les connaissez, les pseudos ici. Donc, du coup, bah, je ne lis pas trop les subs. Ce qui, je m'en veux un peu. Donc là, ce matin, j'ai remercié les subs d'hier soir. Voilà. Et certains, d'ailleurs, sont là ce matin. N'est-ce pas, Panda ? Brisby, 38. Merci pour le soutien à l'instant, le 6e mois. Christ, 32-21, merci pour le 21e mois. Armagune, merci pour le Prime. Le Twitch de Pete encore, merci. Et Vincent, 6e à l'instant. Ça, ce sont les subs du matin. Merci beaucoup. Je vous lis un petit peu. Et puis on commence cette revue de presse. Voilà, c'est une belle semaine. Hein. Hier matin, revue de presse. Hier soir, le président de l'ARCOM, c'était son premier stream. Hein. Roch-Olivier Maistre, on a parlé de régulation de la télévision, de la radio, du numérique, de l'adaptation des anciens médias, des anciens écrans au nouveau monde du numérique. En vrai, c'était fascinant. Ce matin, revue de presse. Demain matin, mercredi, revue de presse. Jeudi matin, revue de presse. Vendredi matin, je pense, revue de presse. Vendredi soir, l'hebdo Étienne, avec 4 super invités, déjà calés, c'est propre, dont 3 ne me donnent aucune nouvelle, tout va bien. Et dimanche soir, ça me plaît. Folie! Merci Captain McBurnick pour l'abonnement offert à Slow Rants. Merci Meders pour le 2e mois d'abonnement. Voilà. On voit quand même que voilà, j'ai arrêté des petits trucs. Hein. On voit que le fait que j'ai décidé d'arrêter la matinale de France Info pour dormir un peu plus, on sent que j'ai quand même pris une petite partie de ce temps pour l'investir sur Twitch. Quoi. Voilà. Ça me plaît avec qui ? Je vous dis pas, même si certains ont déjà l'info, puisque l'invité a leak. Mais ce que je peux vous dire, c'est qu'on va jouer dimanche à Minecraft et je me réjouis parce que je ne comprends rien à ce jeu, donc là j'ai besoin qu'on me prenne la main et qu'on m'explique un petit peu. Marie Marmotte, évidemment, comme tu es abonné, tu vas pouvoir voir le replay du président de l'ARCOM, et puis même si tu ne l'es pas, tu pourrais le voir à partir de 13h aujourd'hui sur ma chaîne YouTube. Anyway, est-ce que tu dors pas un peu plus, Diesel? Si. Je suis passé de 3 heures de sommeil en moyenne à plutôt 4-5 heures. Et ça n'a l'air de rien. Mais, pardon, je me fais beau. Hop. Mais ça change la vie, en vrai. Non, mais c'est pas grave s'il a leak, hein, l'invité. Hein, ça va, c'est pas un secret d'État. Hein. À quand Jean Massier sur Simplay? Bien sûr! Tiens, mon ami, Tatouf Métou 78, que je citais tout à l'heure, il est là. Et effectivement, bien sûr que Jean Massy va venir dans Simplay. Bien sûr, on a 31 émissions grâce à nos partenaires, 31 émissions cette saison, 31 jeux, même plus, puisque Marcus nous a fait découvrir 3 jeux, Portal, Pain et avec tous les persos personnalisés là, Soul Calibur. Donc en fait, on sera au-delà de, on est déjà sur 33 jeux cette saison grâce à Marcus. Super Ben 02, merci pour le 7e mois, merci du soutien. Allez, je vous lis un petit peu. Il y a Rocky Sifredo qui voulait ouvrir, parce que évidemment, question rituelle pour un invité qui vient pour la première fois sur Twitch, peut-être qu'un jour Roch-Olivier Maistre vous lancerez également et vous créerez votre chaîne. Il faudrait vous trouver un pseudo, et on sait un petit gentiment, vous êtes amusé en fin de stream. Gentiment d'ailleurs, c'est resté relativement soft. Et Rocky Sifredo ce matin nous explique qu'il voulait offrir son pseudo à notre invité, Rocky Sifredo, à Roch-Olivier Maistre. Curieusement, ça ne l'a pas tenté. Mais en vrai, il était vraiment sympa. C'était cool. Et je vous lis un petit peu, puis on y va. C'est l'objectif, Marveille, le BZH qui écrit le café me donne envie, il va falloir que je me lève. Eh ben, très bien. Considère-moi comme ton réveil matin humain. Très bizarre cette phrase. Oh, est-ce qu'on peut avoir de la force à Thibaut? Oh, le café du matin, je suis malade comme un chien, mais je suis toujours là pour t'écouter. Ça va Thibaut? Rien de grave? Dis-moi que c'est un petit virus de rien du tout. J'espère. Ouais, c'est vrai, magicien, tu as raison, l'actualité est compliquée, mais ça nous fait pas peur ici, puisque on sait qu'on est entre gens de bonne compagnie et qu'on évoque tous les sujets, même les plus sensibles, même les plus polémiques, et qu'on essaye d'en parler de façon chill quand même. La preuve, Lilou Rennes, le cross de mon fils a été annulé hier, le cross, la course, annulé aujourd'hui à cause de la vigilance attentat. Les professeurs leur ont expliqué les attentats d'Arras et tout ça. Il m'en a beaucoup parlé hier soir, je crois qu'il est un peu choqué, petit père. Je pense que les parents qui sont avec nous savent ça, hein. Les écoles s'adaptent. Là, il y a beaucoup de sorties qui sont annulées. Dans l'école de mon fils, les récréations, qui sont un peu en extérieur, ont été annulées. Il y a des activités qui sont annulées. Et tout petit soit-il, dès le CE1, eh bien, les profs mettent des mots sur ce qui s'est passé, notamment à Arras. Ça peut surprendre, hein, qu'on parle de ça aussitôt à des enfants aussi jeunes, mais comme ils peuvent en entendre parler par des petits copains, en passant par hasard devant une radio, une télé allumée, il y a Tartiflette Forever qui pose la question. C'est intéressant, ça faut-il expliquer les attentats aux enfants? Alors, ça dépend de l'âge. Moi, après, c'est très personnel, très subjectif. J'en ai deux à la maison. J'ai un petit de 3 ans qui est en petite section de maternelle, dont je me dis que il y a peu de chances que ses copains lui en parlent, a priori, et qu'il comprenne vraiment ce qu'il entend éventuellement en passant devant une radio et une télé, sachant que à la maison, la télé n'est jamais allumée et la radio non plus. En mode continu, quoi. Donc, si on écoute un média, c'est parce qu'on a décidé de l'écouter et qu'il n'est pas en flux tendu. Donc, déjà, ça ne peut pas arriver à la maison. Moi, je suis contre, parce qu'il faut maîtriser un petit peu ce que les enfants, ce qu'on donne à écouter ou à voir aux enfants. Donc, cela, non. En revanche, je suis content que la maîtresse de Malo, avec des mots très choisis, hein, ait décidé de. Donc, il est en CE1. Donc Malo, il a 7 ans, d'en parler. Pourquoi? Parce que à cet âge-là, c'est des enfants qui peuvent en entendre parler autrement, et pas forcément avec les bons mots, avec des mots pas adaptés, par des médias entendus comme ça, ou par des petits copains. Une maman d'élève racontait, par exemple, dans la classe de mon fils, que son fils avait... on lui avait expliqué à la récré, par un autre enfant, que le professeur avait été... d'Arras avait été égorgé. Ce qui est faux, par exemple, voilà. Donc, vous voyez, donc il faut leur en parler, ouais, à partir d'un certain âge, bien sûr. Oui, ce sera en diff sur YouTube, bien sûr, l'ITV du président de l'ARCOM sur 4, bien sûr. On va commencer par Bruxelles, bien sûr, dans un instant, faire le point sur les dernières informations, ce qui s'est passé à Bruxelles hier soir. Certains, d'ailleurs, très gentiment, nous informaient dans le chat pendant qu'on échangeait avec le président de l'ARCOM. Il y avait Temka qui était au stade hier. L'évacuation s'est faite dans le calme et la discipline. On parle du stade à Bruxelles, on va en parler dans un instant. Bon, Thibaut, c'est juste un gros rhume, tout va bien, tu m'as rassuré un petit peu. Ouais, comme dit Marmotte, les enfants comprennent bien, il faut pas trop les enfantiliser. Oui. Rainbow 86 dit: J'ai grandi avec le 20h à la télé en mangeant tous les jours et ça laisse des traces. Je pense qu'il faut faire attention, ouais, à. C'est-à-dire, parfois dans des foyers, moi je ne juge pas, hein, l'éducation c'est compliqué, hein, mais parfois dans les foyers, vous avez des médias comme ça qui sont allumés toute la journée, la radio en fond sonore, enfin je parle pas de musique ou, mais avec de l'info, ou la télé en fond sonore et le JT. Voilà. Et il faut faire attention quand même, parce que du coup on n'est pas dans la maîtrise de ce qu'on. Ce que les enfants, notamment en bas âge, peuvent entendre. Et voilà, faut faire gaffe, quoi. Moi, chez moi, rien n'est allumé comme ça, en mode toute la journée, quoi. Quand une radio ou une télé est allumée, c'est parce que on veut voir quelque chose en particulier, quoi. Bufovic, merci pour le 8e mois d'abonnement. Chevalier, oh la vache, c'est beau ça. Chevalier Jedi. Tu prends une gousse d'ail, tu la jettes. Ça donne un chevalier Jedi. On s'arrête. Espèce de masterclass du pseudo quand même. Bufovic, chevalier Jedi. Carole CGM. Merci pour les gentils messages. Climatiseur Dyson, c'est quoi ce pseudo? Merci pour le Prime. C'est quoi? C'est une pub cachée? Putain, bien joué, quoi. Superben02, merci pour le 7e mois d'abonnement. Et à l'instant, TTLBZH, merci pour le 18e mois. Ouais. Comment tu expliques ça à Malo, Sam? J'aimerais faire de même avec le mien qui est en CP, me dit Baba Gaïa 54. Écoute, je n'ai comme j'ai appris que l'école en avait parlé, j'en ai pas parlé. J'en ai pas parlé parce que je sais par l'école qu'ils en ont parlé. Mais peut-être que je vais en parler à un moment. Et nous ont été communiqués les mots de la maîtresse. Voilà. Les mots de la maîtresse, qui étaient des mots choisis. Voilà. Et je peux vous les lire si vous voulez. Donc on parle à des enfants de 7 ans. Et l'enseignante a dit, c'est des petits quand même, hein, 7 ans. Hein. La semaine dernière, un monsieur très méchant qui n'était pas d'accord avec les autres les a attaqués. L'un d'eux a été tué. Nous restons dans l'école car c'est là que nous sommes le mieux en sécurité. Il ne faut pas s'inquiéter car les adultes sont tous mobilisés pour que les enfants soient en sécurité. C'est important ça, hein, ce discours. Hein. Ça peut créer beaucoup d'anxiété chez les petits. Hein. Et qu'ils devaient demander à leurs parents de les emmener faire du sport mercredi parce qu'il n'y aura pas de sport cette semaine. Voilà. J'ai dédramatisé, a dit l'enseignante, parce que certains parlaient de guerre, de terrorisme. On parle, voilà, on parle d'enfants de 7 ans. Ça veut dire que ce sont des enfants de 7 ans qui ont entendu des conversations d'adultes où les mots guerre, les mots terroristes et peut-être des mots plus forts encore ont été prononcés, ou alors ils ont entendu la radio, la télé, quoi. Donc en vrai, je trouve ça pas mal, quoi. Faire attention aussi, hein, chouchou, là. Il y a Anzande qui me demande si j'ai l'intention de parler, vous savez, des manifestations interdites, notamment les manifestations de soutien aux Palestiniens en France. Sache que j'en ai déjà parlé la semaine dernière. C'est un sujet que j'ai soulevé en m'interrogeant sur l'interdiction de ces manifestations. Et on a un article aujourd'hui qui en parle également. Voilà. Donc c'est pas un sujet sur lequel on fait l'impasse ici. Est-ce qu'on a des nouvelles en Belgique, des nouvelles sérieuses, me dit Anthony. On va aller voir ça tout de suite. On va aller voir ça tout de suite. Diesel le dit mieux que moi, cette histoire de comment parler aux enfants de ces actualités dramatiques. Diesel qui dit, c'est vrai, les enfants comprennent souvent plus de choses qu'on ne pense à leur jeune âge. Il est important de leur parler avec des mots simples et adaptés à leur niveau de compréhension. Si nous n'abordons pas certains sujets avec eux, d'autres personnes ou sources pourraient le faire à notre place, ce qui pourrait être plus compliqué à gérer. Une communication ouverte et honnête est généralement la clé pour répondre à leurs questions, les aider à comprendre le monde qui les entoure. Diesel, merci pour cette contribution. Je trouve que tes mots sont justes. Alexandra, merci d'être avec nous. Bon, je vois qu'il y a des parents de jeunes enfants dans le chat d'ailleurs qui s'interrogent sur ce... Non, je suis pas au courant. Captain McBernick nous dit, au fait Samuel, tu as vu les nouvelles fonctionnalités de Story pour Twitch? J'ai eu des notifs ce matin, certains en font. Qu'est-ce que c'est que ça? Des stories? Racontez-moi, ça m'intéresse. Beto Guartz, merci pour le cinquième mois d'abonnement. C'est quoi les stories sur Twitch? Nouvelles fonctionnalités de quoi? Merci Yvigny pour le message. C'est quoi les stories là? Ah non, non, rien à voir. Il y a Dirty Gilbert qui dit, est-ce que c'est le plan annoncé par France Télévisions qui t'a incité à investir plus sur Twitch? Alors rien à voir. France Télévisions aussi veulent faire des trucs sur YouTube, TikTok, Instagram, Twitch. C'est le plan de France Télévisions. Ici, moi, c'est moi, quoi. Donc ça m'est arrivé de les accompagner, de les épauler, de les conseiller, sur Twitch, sur les quelques streams qu'ils ont fait sur la chaîne France Télévisions. Mais en fait, faut bien comprendre, moi j'adore l'entreprise pour laquelle je travaille, mais il faut bien compartimenter, quoi. Donc, je vais même être coquin. Il y a Dirty Gilbert qui dit, est-ce que c'est le plan annoncé par France Télévisions qui t'a incité à t'investir plus sur Twitch? Je vais pas du tout être modeste, mais je me demande dans quelle mesure c'est pas plutôt mon activité de ces 3 dernières années intensives sur Twitch qui a confirmé l'envie de France Télévisions de peut-être de faire des trucs demain, quoi. Hein, bon, on va pas non plus se raconter des cracks, hein. Alors c'est quoi cette histoire de... Ah merci, il y a un lien. Il y a un lien, on m'a mis un lien de story. Alors c'est qui ces pépins, c'est qui stories. Oh, c'est what. Alors, et vous pouvez mettre le lien d'une story, par exemple, on me dit que la streameuse qu'on a raid hier a fait une story justement. Et qu'on dit que Pépin a fait une story aussi. Nico Manga, n'hésite pas à mettre le lien par exemple de la story que tu évoques. Ah oui, en français c'est mieux, ok, let's go. Story sur Twitch, restez en contact avec votre communauté, ça m'intéresse. Oh, merci en Zande. C'est gentil. Je sais pas si je mérite tous ces mots, mais. Ah oui, tu peux pas le mettre le lien parce que t'es pas modo. Les modos, si vous avez un exemple de story, notamment de la streameuse, vous savez, qu'on a raid hier, arnaque-moi si tu peux, hein, qui lutte contre les phénomènes d'arnaque, contre les brouteurs, ce serait sympa. Alors, qu'est-ce que c'est que cette nouvelle fonctionnalité sur Twitch? Ça tombe bien, on est sur Twitch. Alors, j'ai le plaisir de vous annoncer l'arrivée d'une story sur Twitch. Blablabla. Nouvelle fonctionnalité intégrée à l'application mobile Twitch, ok, qui vous permettra de rester en compte. Blablabla, voilà l'essentiel. J'imagine que vous connaissez déjà le concept des stories, ouais, ok, sur TikTok, quoi. Non, c'est sur Insta d'ailleurs plutôt. Toutefois, en intégrant. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Des messages courts qui expirent au bout de 48 heures. Bon, bah, c'est un copier-coller de la story d'Insta, quoi. Hein, c'est ça, hein. On est d'accord? Ça marche que sur mobile déjà, me confirme MMG. Ok, je me posais la question, très bien. Blablabla. Les stories sur Twitch vous permettent de créer et de partager rapidement du contenu au quotidien, où qu'elle soit, directement sur Twitch à l'aide de votre appareil mobile. Ok. Partenaires et affiliés. Blablabla. Blablabla. Bon. Ok, blablabla. Alors, que vous utilisez pour tenir votre stream au courant de votre actu, pour partager une photo de vos vacances, ou que vous souhaitiez simplement envoyer des ondes positives, les stories vous permettent de stimuler l'engagement de votre communauté. Nom de Dieu. Nom d'Idius. Ok. Ok, c'est pour informer quand on stream, notamment. Ok, ça m'intéresse, ça. Qu'on est en retard, tout ça. Donc, ah, c'est bien ça, par contre. C'est pour moi, ça. Ah, ça peut, avant de lancer un stream, déjà. Ok. Ouais, c'est, en fait, c'est la story d'Insta, mais adaptée à Twitch. Les notifications instantanées préviendront vos followers de la publication d'une nouvelle story. C'est bien, ça. 48 heures, ça expire. Pas mal. C'est beaucoup de blablabla, mais bon. Bon, ouais, moi je t'aurais résumé ça. Hein, disant, bon, tu connais Insta, tu connais les stories, on a fait pareil. Sérieux, regardez la longueur du texte là. Hey, straight to the point. Hey, hop. Faut aller à l'info, quoi. Heureusement, je l'évite, hein, sérieux. Hein. Tu connais Insta? Tu connais les stories? On l'a fait pareil. On a copié. Allez, on est des gros copieurs, mais ça va vous plaire. C'est quand même plus clair. Hein? Alors? Bon, on est d'accord? Oh, il y aura de nouvelles fonctionnalités. Qui est pas ça? Ouais. Ah oui, c'est de la story qui va s'améliorer. Ok, bon, c'est bien ça, non? Alors, on sait pas lire de toute façon, d'accord. Et encore, on disait ça d'Insta qui avait copié Snapchat. Ah oui, alors moi j'ai pas connu Snapchat, d'accord. Ok, pavé César, excellent, bien sûr, excellent. Ouais, ça y est, vous commencez à parler mal comme moi. Il y a Nico Manga qui dit, est-ce qu'on peut foutre des liens de stream sur les stories? Est-ce qu'on peut foutre... Putain, j'ai un raid. Oh, l'énorme raid de Naotech. J'arrive, les amis de Naotech. Alors, ça va, hey, vous tombez bien, qui était en live ce matin sur Naotech. Et alors déjà, Amine Naotech, sachez que dans ce chat, on parle de plus en plus mal. Hein, parce que comme je jure beaucoup moi ici, parce que c'est mon espace de liberté. Donc comme à la télé, j'ai pas le droit de dire des gros mots, j'en dis beaucoup ici. Et maintenant, ça parle mal. Nico Manga, est-ce qu'on peut foutre des liens de stream sur les stories? Je suis sûr que les Amine Naotech en ont parlé ce matin. Sûr. Parce que, donc, excellente chaîne Twitch, excellente chaîne YouTube, Naotech Team, consacrée à l'actualité de la tech. Et je suis sûr que vous avez parlé de cette histoire de story. C'était Marion, ça va Marion? C'était Marion. Super team sur Naotech. Vous avez parlé des stories ce matin? Ouais. Ah, j'en étais sûr. Camillette me dit, Marion en a parlé. Alors, bon, bah, ça a l'air bien cette histoire-là. Alors, c'est pas mal. C'est cool parce que du coup, je vais pouvoir ennuyer plein de gens. J'atteins quasiment les... je suis à 592 642 followers. Sur Twitch. Hein. Et donc on approche les 600 000. Si je suis en capacité d'envoyer une notif à 600 000. Ok, ça commence à parler très mal dans mon chat. Il va falloir que je donne des consignes au modo. Hein. Il y a Gum Gum qui dit on s'en bat les couilles avec une porte-fenêtre des stories. Heureusement que les enfants sont à l'école. Hein. Je vais pouvoir envoyer des stories à tout le monde. Tout le monde n'a pas activé une notif. Oui, c'est vrai. Oui, fais péter Tropical Dart Frog. Fais péter si tu le dis gentiment, si tu le dis avec de bonnes intentions et que t'es pas dans cette ironie stupide, méchante, acariâtre, qui caractérise un réseau social bien connu où les gens aiment se taper sur la gueule toute la journée. J'ai nommé, bien sûr, Twitter/X. Donc, fais péter. Sauf si t'es du camp des gens qui passent leur vie à faire chier le reste de la planète. Oui, c'est un mur porteur derrière moi. J'active. J'ai la ref. On s'en badigeonne les testicules avec le pinceau de l'indifférence. Vous êtes tellement vulgaire. Don Blob, qu'est-ce qui t'arrive? Faites péter la revue de presse, Amel. Ok, on y va, ok. Oh merci Battlefield Grandma pour le gentil message, merci pour le 8e mois d'abonnement. Je vous lis le message parce que ça fait plaisir en vérité. Tellement heureuse de faire partie de cette communauté si bienveillante, cocooning et intelligente. Oh là là là. Ah oui, c'est vrai, j'avoue. Mulo portante sostenudo da una tenda. Exactement Diesel, c'est ça, tout à fait. Quand est-ce qu'on commence à parler actuellement? Ok, on y va, ok, on y va. Et ça va, ça fait 30 minutes qu'on a lancé le stream. Arrêtez de parler mal. Hein? Il y en a qui jurent, c'est fou, c'est bordel de merde. C'est incroyable ces gens qui parlent mal. Hein? Ouais. D'ailleurs, tout à fait, AX Onigami nous dit techniquement l'annonce des stories Twitch, c'est une actualité. D'ailleurs, nous allons passer l'intégralité de ce stream là-dessus. Non, pas du tout, c'est parti. Est-ce que vous voulez un petit sommaire pour commencer? Est-ce que je vous dis ce qu'il y a dans l'actualité de ce matin, l'essentiel de l'actu, en 5 minutes, et pour ceux qui n'ont pas le temps, et pour ceux qui ont le temps, et bien après, on prend le temps. On est parti. Ok, et bien c'est parti. Let's go. Battlefield Grandma, encore merci. Eto Cello, merci pour le 26e mois d'abonnement. CSR95 pour le 10e mois. Dratox, merci pour le 2e mois. Lloyd de la Ouillette, merci pour le 7e mois. Doudinette, encore merci. Et les amis de Naotech Team, merci pour le raid. C'est parti. Alors, je redeviens sérieux puisqu'on commencera ce stream par ce qui s'est passé hier à Bruxelles. Vous savez que les journaux que je lis le matin... bien à un moment doivent partir à l'imprimerie. Donc même s'ils continuent à actualiser leurs articles sur leur site internet, la version numérique de ces journaux papier ne peuvent pas prendre en compte les infos tombées tard le soir ou dans la nuit. Et donc ce matin, ne soyez pas surpris, il n'y avait dans la presse qu'un seul article sur la terreur dans les rues de Bruxelles. Je lis Le Parisien, puisque c'est dans Le Parisien, cet unique article. Au moins 2 personnes ont été tuées hier soir dans la capitale belge par des tirs d'armes. Le suspect était toujours en fuite en fin de soirée. Donc ça, c'est l'unique papier dans la presse, version papier téléchargée en numérique, évidemment, sur le site du Parisien, sur le site du Figaro, sur le site du Monde, sur le site de France Info, etc. On va trouver des articles plus complets, notamment avec les dernières informations. Voilà. Certains, par exemple, dans le chat, affirment que le tireur a été abattu et qu'il est décédé. Ça, c'est une info que je vais aller vérifier, puisque vous savez qu'ici, on ne donne pas des infos comme ça si elles ne sont pas sourcées des autorités belges, par exemple, d'un procureur, d'un média dont on connaît la rigueur et le sérieux, dont on se dit « Ok, c'est approuvé, voilà ». Vous voyez, c'est un truc. Bon, alors je lis, mais quand on me dit « Oui, oui, c'est bon, il est mort, il a été abattu », je ne répercute pas l'info, puisque ici, on vérifie toutes les infos. On n'est pas sur certaines chaînes d'infos que je ne vais pas citer, qui, à 8h, vont vous dire un truc, à 8h15, une autre, totalement l'inverse, sans s'excuser. Il y a des chaînes qui fonctionnent comme ça. Ici, on ne le fait pas. OK ? Voilà, vous voyez, c'est marrant, parce que là, dans le chat, il y a des gens qui me disent qu'il est mort et des gens qui me disent qu'il est blessé à l'hôpital, vous voyez ? C'est pour ça qu'en fait, il faut toujours, un, vérifier, deux, prendre le temps. Voilà, ça c'est vraiment une règle de base dans l'actualité. Donc on parlera de ça, on ira chercher des informations. Je vous parlerai aussi de la suite de l'attentat d'Arras et des réactions politiques et notamment des annonces du gouvernement. Terrorisme, le président Macron, c'était la une du Monde hier après-midi. Le président Macron veut un État impitoyable. Voilà. Qu'est-ce que ça veut dire ? Le président, le chef de l'État, qui a notamment demandé au préfet l'examen de tous les fichiers S. Accusé de laxisme, le gouvernement veut accélérer l'expulsion des étrangers radicalisés, quitte à enfreindre le droit international. Il y a Mi69 qui dit « Règle de base, ne pas écouter le chat ». Ici, c'est l'inverse. On est très, très porté sur l'échange avec le chat. C'est juste que on vérifie les infos. C'est tout. Moi, je suis là pour discuter avec vous. Hein. Si c'est pour pas discuter avec le chat, il faut pas venir sur Twitch. Il faut rester à la télévision, quoi. En vrai. C'est pas parce qu'on vérifie qu'on n'a pas envie d'échanger, bien sûr. Risque terroriste, Macron réclame un État impitoyable. C'est le dossier du Monde. Voilà. Le Parisien est sur le même sujet, en mode un peu pessimiste. L'impossible expulsion des radicalisés, terrorisme islamiste, l'impossible expulsion des radicalisés, parce que il y a les annonces et puis il y a la réalité des faits après. Le spécialiste avec un Z nous le dit dans le chat, blablabla, toujours à attendre qu'il soit trop tard pour prendre des décisions évidentes. Il y a les annonces, il y a les mots, puis après il y a la réalité des faits et ce qui est possible et ce qui n'est pas possible, notamment dans un état de droit. Etc. L'impossible expulsion des radicalisés, ça c'est la une du Parisien, et un dossier, le gouvernement au défi des expulsions. Voilà, je vous parlais de droit, un état de droit, voilà, ce que prévoit le droit français en la matière. Qui peut-on expulser? Comment? Est-ce qu'il faut changer la loi? Il y a un projet de loi sur l'immigration qui est en débat actuellement au Parlement, qui prévoit notamment de changer des choses à ce sujet-là. On en parlera. Je remercie, pardon, Tropic Call, Dart Frog, Dorothée 445 et 927 Syriac pour tous les abos. Merci à vous. On parlera bien sûr, après Arras, du Proche-Orient. Israël sur le chemin de la guerre. Opération terrestre ou pas opération terrestre? Vous savez que la bande de Gaza est bombardée depuis plusieurs jours avec un bilan très lourd côté palestinien, notamment avec beaucoup de civils tués. Est-ce qu'il va y avoir une offensive terrestre avec des dizaines de milliers, peut-être plus de soldats israéliens pour aller réduire définitivement le Hamas au silence? Eh bien, c'est la question qui est en suspens. Le Parisien ne semble pas en douter. Pour le Parisien, cette offensive terrestre n'est qu'une question de jour. Vendredi soir, dans l'Hebdo Étienne, on aura de nouveau Héloïse, chercheuse à l'IFRI, spécialiste du Moyen-Orient, pour se pencher sur ce sujet avec nous. Offensive terrestre, mais alors quid des otages? Quid des otages? L'angoisse et la colère de qui, nous dit la Croix? Des familles des otages? Qu'est-ce qui se passe? On a, d'après le gouvernement israélien, 100 99 personnes retenues en otage dans la bande de Gaza par le Hamas, et les familles ont l'impression qu'en fait le gouvernement israélien, comment le dire, que pour ce gouvernement ça n'est absolument pas une priorité, que la priorité est de taper, idéalement de supprimer le Hamas, et que la question des otages prioritaire, qui a toujours été prioritaire dans l'histoire, le passé d'Israël, est cette fois passé au second plan. C'est le sentiment des familles qui sont extrêmement inquiètes. On lira ce dossier. Dans l'actualité internationale, alors sur le coup, j'étais pas trop hypé par ce sujet. Et puis, donc j'ai passé un petit peu les élections en Pologne, là. Je me suis dit, ouais, bon. Et puis j'ai fait marche arrière, parce qu'après, j'ai lu un autre article dans Les Échos sur l'économie polonaise qui est en pleine forme. Alors moi, j'ai appris un truc. La Pologne, économiquement, ça marche très très fort. Et en fait, du coup, je suis revenu en arrière sur ces élections en Pologne qui, je l'ai compris un peu plus tard, en fait, étaient importantes sur le plan économique. Grâce à quoi ? Ben, je vous en parlerai de la Pologne. Il y a un dossier dans Les Échos qui est passionnant. Mais des élections, en fait, en Pologne qui sont super importantes, puisque vous aviez, comment dire, au pouvoir un parti, comment le qualifier ? National conservateur, c'est ce que dit Libération, donc bien à droite, qui a vraiment fait prendre à la Pologne ces dernières années un virage ultra conservateur, exactement comme le dit Félix dans le chat à l'instant. Et ça vient de changer, puisqu'ils ont perdu les élections et que vous avez une opposition démocratique, une coalition formée par trois partis qui est arrivée en tête. Voilà. Donc on va se pencher sur la nouvelle donne politique en Pologne, et sur, vous le verrez dans Les Échos, l'étonnante forme de l'économie polonaise. Alors c'est vachement intéressant. Voilà. Hop, le voilà. Quel à propos. Magnifique. La Pologne métamorphosée par 30 ans de miracle économique. Alors moi j'ai appris un truc là. Voilà. Ça m'a donné des petites envies de stream en Pologne, ça, en me disant, tiens, on va aller voir ce qui se passe là-bas. Je connais pas la Pologne. Vous connaissez la Pologne ? Ouais, MMG me dit 6e puissance économique européenne. Ouais. Comment vous savez tout ça, vous ? J'ai appris ça ce matin, moi. C'est super comme pays, me dit Félix. Ah, j'adore la Pologne, me dit Spectrum. Ouais. La Pologne, c'est cool. Ah ouais ? Je connais pas. Je suis polonais, me dit Winchester. Je suis à Varsovie, me dit Trop Matisse. Je connais une Polonaise super sympa, me dit Exutoire. C'est pas une qui faisait petit alcool de poire, là. Ils ont arrêté la production parce qu'il y en a qui devenait aveugle. Pas ça ? Oh, mais il y a notre ami Pépin, Pépi, hein, qui est là. On l'applaudit, on l'embrasse. Pépin, c'est notre artiste, notre graphiste préféré, qui est avec nous ce matin. C'est elle qui fait notamment les très jolis visuels qui annoncent les émissions. Notamment, ça me plaît. Voilà. Et Pépin, puisque tout à l'heure j'en profite, je les trouve trop beaux, tes visuels. Voilà. Vous pouvez envoyer tout votre amour à Pépin, qui est avec nous. Ok, donc il y a pas mal de gens qui me disent que la Pologne, c'est cool. Hein. Spectrum, très beau pays, on y mange bien. À Cracovie, c'est très vivant, plein d'étudiants, de quoi stimuler nos cerveaux. Trop bien. Klamakin, mon petit frère vit à Varsovie, j'y suis allé en mai avec la famille, j'étais très surpris par la qualité de vie. Alors arrêtez, il y a tous les gars là qui sont en train de me raconter leur rencontre avec des Polonaises. Arrêtez, j'ai rencontré une Polonaise en Erasmus, j'ai une amie polonaise. Chopin aimait la Pologne. Bah, Chopin n'était pas polonais ? T'es polonais, Chopin, non ? Je me mets en mode étoile. On vérifie. Ah, franco-polonais ? D'ascendance franco-polonaise ? Tiens, c'est marrant. J'aurais dit polonais, quoi. Qu'est-ce que ça veut dire ? Compositeur et pianiste. Bon, ben, Chopin, quoi. Virtuose d'ascendance franco-polonaise, né en Pologne, hein, duché de Varsovie. Bon, ouais, formation à Varsovie, début de carrière en Pologne, et puis à partir de 21 ans, il s'installe en France. D'accord. D'ascendance franco-polonaise. Alors, attends. Pourquoi franco, du coup ? Parce qu'il a beaucoup vécu en France ? Ah, nationalité. Frédéric Chopin, Et ne pas dire Chopin. Hein. Chopin, c'est une petite bière, ça n'a rien à voir. Là, ça nous emmène en Belgique. Et le fils de Nicolas Chopin, donc qui est un Français, hein, par son père, voilà, et de la Polonaise Tekla Justyna Chopin. Polonaise. Ah, d'accord, donc franco-polonais. Compte tenu du fait qu'il a un père français et une mère polonaise, la question de la nationalité de Chopin a fait l'objet d'un débat passionné pour déterminer son statut officiel. Alors Chopin, pour trancher ce débat, se considérait comme un Polonais. Voilà. Point. Pour ça, je disais Polonais, moi. Voilà. Non seulement il est né et tout le début de sa vie c'est en Pologne, mais intellectuellement, nous explique cet article dans Wiki qui semble bien fait, eh bien il se sentait polonais. C'est ça qui est important. Ouais. Tout ça je le sais grâce à un magnifique animé que j'ai vu sur récemment là sur une compétition de piano là, je sais plus comment ça s'appelle, magnifique, voilà. Et ça parle beaucoup de Chopin du coup. Ouais. Et il y a une compétition à un moment de piano qui est formidable, avec plusieurs épisodes. Ça se passe en Pologne. Comment s'appelle cette série animée là, tirée d'un... Il y a eu un film avant, formidable, le piano. Dans le chat, ça va pop. Le piano dans la forêt. Voilà. C'est comme ça que j'ai su que Chopin était polonais. Piano in forest, exactement. Non, Your Lie in April, c'est autre chose. C'est formidable aussi d'ailleurs. Mais voilà. Bon bah les amis, on va y aller, hein. Pépipin, merci d'être avec nous et merci pour le 22e mois d'abonnement, Maxo pour le Prime, et ben on y va. Pardon, il reste un dernier article, c'est celui-ci, on va parler de Disney, et là je suis un petit peu tristoun parce que Mickey, Minnie, Pluto, Dingo, la petite sirène, enfin tout le monde quoi, en fait, sont un peu tristoun là. Parce que Disney est dans une passe difficile. Ouais. Disney est dans une passe difficile. Le groupe Disney reste un mastodonte de l'entertainment, ouais, avec les plus belles franchises de l'industrie, mais entre recul de la télé traditionnelle, parce que Disney, ils ont des télés classiques. Les difficultés du streaming, vous savez qu'ils ont plein de... Ils ont investi beaucoup dans le streaming. Et une panne créative. Ça arrive, les pannes, ça arrive. Avec des derniers films qui n'ont pas trop marché. Voilà. Comme le dit Lilian, ils n'ont qu'à recommencer à faire des bons films. Voilà, vous êtes méchants. Eh bien, le géant californien. Voilà. Nous, on a le géant vert. Voilà, pardon, c'est du maïs, ça n'a rien à voir. Eh bien, le géant californien traverse une période de houleuse. Voilà. Oh non, Claude Doc, non. Non, soyez polis quand même. Soyez poli et respectueux. Hein. Il y a Drana qui dit Samuel, il connaît ça, les pannes. Et les bannes, tu connais, Dranak? Sérieux? Samuel, il connaît ça, les pannes? Et les bannes? Et les bannes def? Et les bannes def dans ta gueule? Hein? C'est dingue, ça. Respectueusement, ouais, exactement, ouais. Foiré, va. Merci Arnaud pour le 26e mois d'abonnement. Bon, en ce moment, je dis beaucoup de bêtises. Et voilà, c'est aussi pour vous faire rire, parce que vu que l'actualité est quand même dramatique, je me dis qu'il faut que je. Il faut que je compense un peu, quoi. Ah, vous avez vu la. Ok, vous avez vu la. Alors, c'est, ouais, c'est l'histoire des pannes, c'est un clin d'œil à un délire qu'on s'est tapé dans l'hebdo Étienne, pas la dernière, celle d'avant, notamment avec. Il y avait Max Hildan, il y avait Thomas Desseur, il y avait Thomas, je crois, il y avait Alison Wheeler, voilà. Et on a une émission qui est partie dans tous les sens, et à un moment, je ne sais pas comment c'est arrivé sur le tapis, on a parlé de la fréquence des rapports amoureux. Voilà. Donc on est parti en sucette, on a dit un peu n'importe quoi, et on a bien rigolé, donc tout le monde a bien rigolé. Et après, il y a un extrait qui est parti sur TikTok, et qui est déjà à plus de 600 000 vues. Donc voilà, donc il y a des gens qui sont au courant, quoi. Oui, j'ai vu ça, le groupe de Disney qui est arrivé en train à Disney au lieu de la Strasbourg, il y a eu un problème d'aiguillage. Ouais, il y a Thibaut, c'est pas une info chat, c'est une vraie info. Il y a un groupe de députés européens, je crois, qui devaient aller à Strasbourg et puis sont arrivés à Disneyland. Il y a eu un problème d'aiguillage. C'est vrai. Bon, je vous ai pas mis l'actualité de côté parce que ça me semblait pas essentiel, mais voilà. On veut voir l'extrait? Non. Non. Non, non, c'est pas. Vous irez voir sur TikTok. Vous allez sur mon compte TikTok, vous verrez. Si vous cherchez dans les dernières vidéos, là, il y en a une à 600 000, c'est celle-là. Ouais. Oh non, 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 non. En plus, on part à Bruxelles. On va pas faire. On va pas faire la vidéo là. Non, non. Vous irez voir, hein? Vous irez voir. Comme ça, comme ça monétise TikTok. Vous me ferez des vues. On y va ou quoi? C'est parti pour la revue de presse. Yes.
Oh, yes. Yes. Yes, 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 yes. Yes. Yeah, baby.
Voilà, excellent. On y va? Allez. Bon, vous, hein, vous avez vu, je dis beaucoup de bêtises le matin. Encore une fois, c'est pour nous changer les idées parce qu'en vrai, l'actu, elle n'est pas super, super gay. Arnaud, 39, 212, merci pour le 25e mois d'abonnement. C'est drôle parce que juste avant, il y avait un autre Arnaud qui avait sub. Merci à tous les deux. Allez, on y va. Bruxelles. Une pensée ce matin pour tous nos amis belges, notamment ceux qui nous regardent ce matin, et spécifiquement nos amis bruxellois. Ce qui s'est passé hier soir, c'est juste une dinguerie. Terreur. Dans les rues de Bruxelles, c'était hier soir. Le Parisien nous en parle ce matin. On ira chercher d'autres articles pour voir les dernières infos. Pensez pour la Suède, vous avez raison. Pensez pour nos amis suédois aussi. Au moins deux personnes, a priori de nationalité suédoise, ont été tués hier soir dans la capitale belge par des tirs d'armes. Le suspect était toujours en fuite en fin de soirée. Ça a changé, on va aller voir les dernières infos. Le parquet a ouvert une enquête pour terrorisme, puisqu'il s'agit bien d'un attentat. Bébert habite à Bruxelles, écrit dans le chat, j'habite à 200 mètres de l'attentat. C'était très flippant. Panique. Panique à Bruxelles, aux alentours de 19h15. Hier soir, un homme armé d'un fusil automatique a ouvert le feu en pleine rue, près de la place Sainte-Thelette, dans les quartiers nord de la capitale, touchant mortellement deux personnes, selon le bilan annoncé par la police belge. L'auteur présumé était hier soir toujours recherché. On va aller voir les dernières actus dans un instant. Les deux victimes seraient de nationalité suédoise. Voilà. L'enfeust se demande ce que c'est ce F qui est très important, vous avez raison de l'écrire dans le chat, hop, tu fais point d'exclamation F, et hop, le bot va te donner l'explication. C'est un hommage, c'est une référence à un jeu vidéo, c'est un hommage. Les deux victimes de nationalité sans doute suédoise portaient des tenues aux couleurs de l'équipe de football de la Suède qui affrontait hier soir la Belgique au stade du Roi Baudouin. Le match d'ailleurs a été interrompu. À la mi-temps, le speaker du stade a demandé à toutes les personnes présentes dans l'enceinte de ne pas la quitter. Un dispositif de sécurité a été déployé autour du stade, selon le journal belge Le Soir, dans plusieurs vidéos postées sur les réseaux sociaux, parce qu'il a enregistré des vidéos. Le suspect se présente comme un djihadiste, se revendique comme appartenant à l'État islamique. Dans l'une d'entre elles, traduite par le journal, l'homme se présente expliquant avoir vengé les musulmans. L'homme aurait tiré à plusieurs reprises avec un fusil automatique. Il aurait également fait feu sur un véhicule avec plusieurs passagers à bord. Après, je vois quelqu'un qui vient d'écrire dans le chat, un jour on se rendra compte qu'il y a un problème avec cette religion. Il n'y a pas un problème avec cette religion. Il y a un problème avec les gens qui ont une lecture dévoyée de cette religion. Des gens qui n'ont pas compris cette religion. Comme il y a plein de gens de tout temps dans l'histoire de l'humanité qui n'ont pas compris le message essentiel des religions, qui est un message religion, relié à, si tu pars sur l'étymologie du mot, les religions portent un message de fraternité, portent un message d'amour. Voilà. Et les gens qui agressent ou tuent les autres au nom des religions, c'est des gens qui n'ont pas compris le message. Voilà, c'est tout. Ça n'a rien à voir. Islam, islamisme. On ne parle pas d'une religion ici. On parle de gens qui ont dévoyé cette religion ou les autres religions. J'en parle d'autant plus facilement que je ne suis pas croyant moi-même, mais que je respecte les gens qui croient. Pardon pour cette parenthèse, mais elle me semblait un petit peu importante. Donc l'homme explique avoir voulu venger les musulmans. L'homme aurait tiré à plusieurs reprises avec un fusil automatique. Il aurait également fait feu sur un véhicule avec plusieurs passagers à bord. Après avoir tiré, l'homme vêtu d'une veste fluo orange s'est enfui sur un deux-roues motorisé. La circulation du tramway a été suspendue. Plusieurs stations de métro ont été fermées. Quelle ambiance hier soir à Bruxelles. Et un périmètre de sécurité a été installé, tandis que le niveau d'alerte maximum 4 sur une échelle de 4 a été déclenché dans la capitale. Dans la foulée, le ministre de l'Intérieur français, Gérald Darmanin, a annoncé le renforcement des contrôles à la frontière entre la France et la Belgique. Ça, c'était les infos dont disposait Le Parisien hier soir, quand le journal est parti à l'imprimerie. On va aller voir, bien sûr, maintenant les dernières infos sur Bruxelles, voir ce qu'il en est, puisque dans le chat, certains disaient que le terroriste, puisqu'il s'agit manifestement bien d'un terroriste, était mort, d'autres qu'il était blessé à l'hôpital. Ce qui est incroyable, c'est que sa cavale a quand même manifestement duré super longtemps. On va essayer de trouver des infos fiables. Article sur lemonde.fr. Le parquet fédéral annonce l'interpellation d'un individu soupçonné d'être le tueur. L'interpellation, j'en déduis, en tout cas à l'heure où Le Monde écrit ce papier, c'est-à-dire il y a une heure, qu'il n'était pas mort. Scherbeck, il a été interpellé, on dit Scherbeck ou Skerbeck, pardon, je ne sais plus, dans la commune bruxelloise de Skerbeck, je crois, où un immeuble avait été perquisitionné dans la nuit. La police a ouvert le feu sans préciser si le suspect, on dit Skerbeck, hein, c'est ça. C'est que interpellation d'un homme, mais la police a ouvert le feu. Dans cet article, il n'y a pas de précision sur le fait qu'il est blessé ou pas. Article posté à 8h29, ok. Skerbeck, ok. L'homme radicalisé, d'origine tunisienne, soupçonné d'avoir tué de sang-froid deux ressortissants suédois en pleine rue à Bruxelles, jusqu'à l'arrestation, là. Donc, arrestation ce matin, hein. Selon le ministre de la Justice belge, ce demandeur d'asile a été condamné en Tunisie pour des délits de droit commun, mais n'était pas signalé pour un risque terroriste. Okay. Et en fait, c'est une perquisition manifestement dans un immeuble de Skerbeck, identifié comme un possible logement qui aurait mené à son arrestation. Le Monde parle d'une arrestation de tir. On ne sait pas si le terroriste était blessé. Certains dans le chat m'annonçaient qu'il était mort. D'autres hospitalisés. Vous voyez, comme quoi il faut prendre le temps. Ce temps, on va le prendre pour trouver les dernières infos et les plus fiables possibles. J'ai un article du Parisien, il y a 20 minutes, vous voyez. Là, on lisait Le Parisien dans l'édition papier hier soir. Et là, on est sur leparisien.fr avec donc les dernières infos du Parisien. Soupçonné, voilà, un homme soupçonné d'être le tireur interpellé. Hein, déjà un peu de prudence parce qu'il faut être sûr. On va aller voir le site de la RTBF, bien sûr. On va aller voir. La RTBF le donne mort. On va aller voir le site de la RTBF. C'est un média public belge de qualité, rigoureux. Donc, effectivement, on peut peut-être se fier à ces infos. On va aller voir. Vous avez raison. Je lis juste Le Parisien et on va voir le RTBF. Voilà. Effectivement, confirmation qu'il y a une vidéo où l'homme fait référence à l'État islamique. Ok. Allons voir la RTBF. La RTBF, voilà, et merci MMG pour le lien. Voilà. Effectivement, la RTBF, vous savez, on essaye ici... Oh, ça va les cookies, hein. On essaye ici de se poser au quotidien la question qui n'est pas toujours facile, hein, de savoir si un média... a ou non une réputation de qualité. Voilà. La RTBF, à ma connaissance, est un média qui a une bonne réputation. Et donc, je vous lis. Attends, la mise en page est quand même un peu... Alors, voilà. Ok, on regarde l'heure. Voilà, il y a 20 minutes. Voilà. On a le prénom et l'initiale du nom de famille du terroriste présumé, Abdesalem L, l'auteur de l'attaque est décédé. Voyons. Ok, on prend les infos. Le suspect a été neutralisé par la police. La police a mené une opération ce matin dans le quartier de la Cage aux Ours, à Scarbec. Un homme avait été neutralisé par les forces de l'ordre. Une arme avait été retrouvée sur lui. Après identification, les autorités ont pu confirmer qu'il s'agissait bien d'Abdesalem L, l'auteur de l'attaque de ce lundi soir à Bruxelles. On a appris à 9h30 que le suspect était décédé. Alors, vous allez peut-être que cette information sera confirmée de sources officielles dans les prochaines minutes, les prochaines heures. Mais vous voyez, le réflexe, qui est un réflexe journalistique et qui doit être un réflexe citoyen aussi, c'est que cette info, vous devez la prendre avec prudence. Vous voyez pourquoi ? La phrase de l'article de la RTBF dit « On a appris à 9h30 que le suspect était décédé. » On. Donc, on, le média. Mais par qui ? Quelle est la source ? Est-ce que c'est la justice belge ? Est-ce que ce sont les policiers belges ? Est-ce que ce sont les enquêteurs ? Est-ce que c'est le gouvernement ? On n'a pas la source. Voilà. Et quand on n'a pas de source, de source qui permet, en cas d'erreur, de dire « bah non, vous avez raconté de la merde, là », et bien du coup, il faut rester prudent. Voilà. Donc, on a appris à 9h30 que le suspect était décédé. C'est une info qui est peut-être vraie, mais à laquelle je donnerais plus de crédit si la phrase était « on a appris par une annonce du ministère de la Justice, du procureur, des services de police, que le suspect était décédé. » Ce serait, vous voyez ? Donc on est. L'info, c'est pas une course. Je sais que les chaînes info et internet ont essayé de nous habituer à cette idée que l'info est une course. L'info n'est pas une course. Plus on va vite dans la recherche de l'information, plus on se trompe, en fait. Voilà. Ça n'est pas un progrès. Alors aujourd'hui, est-ce qu'il y a un progrès ? C'est d'avoir une multiplication des sources d'informations. Après, à notre charge de voir lesquelles sont de qualité et les autres de moins bonne qualité. C'est bien, en fait, cette multiplication des sources d'informations. Ce qui est beaucoup moins bien, c'est cette course à la rapidité où toutes ces sources d'informations rivalisent pour être les premières à vous donner les infos. Les chaînes d'infos continuent, les sites internet, voilà. Et c'est tout simple. Plus vous allez vite, moins vous vérifiez l'information, moins vous passez des coups de fil, moins vous êtes carré sur l'info. Donc il faut pas avoir peur de ralentir et parfois de perdre 5 minutes, une demi-heure, une heure pour être sûr de vous donner une information de qualité. Peut-être que ce terroriste présumé effectivement est mort, mais moi je pense qu'il faut attendre une annonce officielle des autorités belges. Ouais. Et ce réflexe, vous devez l'avoir pour toutes les infos, en fait. L'UOA, et parfois on ne sait pas, et parfois il faut attendre plusieurs jours, et parfois très longtemps, et ben c'est pas grave. Il faut attendre. Parfois, il faut dire, on ne sait pas. Parfois, il faut accepter de dire, quand on est un journaliste, on ne sait pas. On ne sait pas. L'UOA, merci pour le 23e mois d'abonnement, Laurie Marin pour les Beats, Bionic Crotte pour le Prime, Yaz Madoka pour le 19e mois d'abonnement, Oulou pour le Prime. Merci à tous. Je vous lis un petit peu et puis on va passer au Proche-Orient et on reviendra peut-être sur la Belgique. Qu'est-ce qui s'est passé en Belgique ? Oui, rappelez-vous, très bon exemple, il y a des élèves qui nous rappellent les erreurs dans l'affaire Dupont de Ligonnès. Hein, à un moment, il avait soi-disant été retrouvé et interpellé, mais on s'est rendu compte qu'on s'était trompé de bonhomme. On va trop vite. Bien sûr, à pu regarder. Des exemples comme ça, je pourrais en prendre d'autres. Hein. Il y a Toufi qui me donne une autre source. avec un média belge qui s'appelle Le Soir. Un homme a été neutralisé, la personne abattue est bien le suspect, il a été formellement identifié, son décès nous a été confirmé par une source policière appelée après plusieurs tentatives de réanimation. Il est décédé, c'est très précis, à 9h38 à l'hôpital. Alors, le journaliste Samuel Etienne et les journalistes d'une façon générale doivent, en lisant ce texte, lire « Son décès nous a été confirmé par une source policière ». Quelle source policière ? Quel policier ? Voilà. Si la source n'est pas identifiée, source policière, ça peut être n'importe qui. Donc, il est probablement mort à l'heure où on parle, vu les informations qu'on voit. Mais notre devoir de journaliste et de citoyen qui s'informe bien, c'est d'attendre 5 minutes, 10 minutes, 1 heure, que ce soit officiellement confirmé. Sinon on rentre dans la désinformation, en fait. C'est mignon. Vous savez quoi? Je vais juste lire un petit message perso dans le chat que je trouve touchant et dont je partage la philosophie. Et puis après, on va aller sur le Proche-Orient. C'est We Are Unicorns, qui est un joli pseudo qui nous dit « Bonjour à tous, bonjour Samuel, je ne parle jamais dans le chat, dans les chats même, mais j'avais envie d'apporter une petite pensée positive. Merci à toi. Je sais qu'on vit une période compliquée depuis presque 10 ans. Tu sais, cette période compliquée, elle dure depuis la nuit des temps, en fait. L'humanité est ainsi faite que... voilà, nous ne sommes jamais réellement dans des phases de paix et de tranquillité. On a l'impression qu'on vit dans une période compliquée, mais vous connaissez ma philosophie là-dessus, en fait. L'humanité est dans une période compliquée ever, en fait. Souvenez-vous, ne serait-ce que les deux guerres mondiales qui, à l'échelle de l'histoire, ne sont pas très très loin de nous. Donc je sais qu'on vit dans une période compliquée depuis presque 10 ans et parfois on se demande pourquoi on continue à vivre ou à avancer. Mais j'ai eu ma fille... il y a 11 mois, et même si on peut penser que son avenir est pourri, non, il ne le sera pas plus qu'il l'est aujourd'hui et qu'il y a 50 ans, qu'il y a un siècle, en fait, c'est l'humanité qui est compliquée. Et même si on peut penser que son avenir est pourri, depuis qu'elle est là, je comprends pourquoi il faut se battre pour la paix, oui, pour l'amour, oui, et l'avenir, parce que la vie, c'est vraiment la plus belle chose, voilà. Et je trouve ton message très très beau. Et je te remercie d'être sorti de ton silence, puisque manifestement tu ne discutes pas trop dans le chat pour nous dire ça, parce que je crois que tu as totalement raison. Voilà. Totalement raison. Et je me permets de faire un coucou à ta petite fille. Il y a Charon le gros geek qui arrive un petit peu en décalé, qui dit « Samuel, es-tu au courant de l'attentat qui a eu lieu en Belgique ?» En fait, Charon, on vient d'en parler là pendant... petite demi-heure, et on va y revenir sans doute dans ce stream, mais oui, on en a parlé. On en parlait déjà dès hier soir, puisque en recevant le président de l'ARCOM, eh bien, certains dans le chat nous informaient de ce qui se passait hier à Bruxelles. Et encore une fois, une pensée pour nos amis belges, bruxellois et suédois, puisqu'a priori, les deux victimes étaient suédoises ou d'origine suédoise. Je vous emmène au Proche-Orient. Voilà. Pour des nouvelles qui ne sont pas très positives. Après l'attentat du Hamas, après la réplique militaire très forte de Tzal, de l'armée israélienne sur la bande de Gaza, le Proche-Orient, hop, il est là. On va en parler ce matin, et aussi l'attentat d'Arras en France. Terrorisme, Macron veut un État impitoyable. Quelle est la réponse de l'État, des autorités, à l'attentat d'Arras où un enseignant, un professeur, a été tué par un terroriste islamiste. Après l'assassinat d'un enseignant devant un lycée d'Arras par un jeune islamiste radicalisé, l'exécutif appelle à ne pas céder à la peur. Macron durcit le ton, demande au préfet l'examen de tous les fichiers S. Qu'est-ce que c'est ça? On va voir. Accusé de laxisme, le gouvernement veut accélérer l'expulsion d'étrangers radicalisés, quitte à enfreindre le droit international. Qu'est-ce qui se passe? On va voir qu'est-ce qu'annonce l'État. Est-ce que ce sont des mots? Est-ce que ce sont des vraies décisions? Qu'est-ce qui va se passer? Merci La Cantine pour le 13e mois d'abonnement. Merci pour ton soutien. Merci l'UEA. Et allez voir la chaîne de La Cantine aussi, qui fait un super travail sur Twitch. Le président de la République a demandé au préfet de passer au crible tous les cas d'étrangers radicalisés expulsables du territoire. Donc déjà, petite précision. Quand on parle de passer au crible tous les fichiers S, hier on a pris le temps, puisqu'on est sur Twitch, de comprendre que les fichiers S ne sont pas tous des islamistes, ne sont pas tous des islamistes radicalisés, et qu'il y a plein de gens en France qui peuvent être fichiers S, qui sont des militants écologistes, des militants politiques, voilà, qui sont fichiers S, c'est-à-dire surveillés, suivis par les services de l'État, puisqu'à un moment, on se dit qu'ils peuvent être une menace pour la sécurité nationale, ayant participé ou ayant le projet de participer, par exemple, à des manifestations violentes. Donc, être fiché S, et pas forcément être un terroriste islamiste. Une fois ceci dit, il ne s'agit pas de passer au fichier au crible tous les fichiers S, mais plutôt tous les fichiers S qui sont des étrangers radicalisés, expulsables du territoire. Alors que l'offensive contre Gaza s'intensifie au fil des jours, et on va en parler ce matin, en France, la sécurité intérieure chancelle. Selon Elisabeth Borne, la guerre au Proche-Orient a pu être un élément déclencheur de la tragédie d'Arras. On était très intrigués vendredi soir dernier quand le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, a déclaré qu'il y avait un lien possible entre l'attentat d'Arras et la situation au Proche-Orient. Et la Première ministre le redit, peut-être que ce qui se passe au Proche-Orient a pu être un élément déclencheur de la tragédie d'Arras. Au sommet de l'État, d'autres drames sont redoutés. D'autres drames sont redoutés aujourd'hui. Samedi, Damnanol et d'autres là, les amis, des gens qui sont sur cette chaîne depuis pas très longtemps. Je vous rappelle le projet ici. Ici, on parle de tous les sujets. Je pense que c'est la chaîne de Twitch, en France, où on parle le plus de tous les sujets qui fâchent, puisqu'on parle de toute l'actualité et qu'on met rien sous le tapis. Ok, ça c'est le cadre. Donc on parle de tous les sujets compliqués, polémiques, qui créent de la tension. Ça c'est le cadre, ça c'est le projet. Mais par contre, on le fait de façon respectueuse. Alors les insultes vis-à-vis de telle ou telle personnalité, de telle ou telle communauté, les insultes, les agressions vis-à-vis des autres viewers, les mots qui dépassent la pensée, c'est non. Ça ne marche pas, ça n'a aucun intérêt. Voilà, parce que ça ne fait pas avancer le débat. Donc on parle de tous les sujets compliqués, à condition, un, de tenir des propos légaux, deux, que ces propos ne soient discriminants vis-à-vis de personne, trois, que ces mots soient respectueux, voilà, les uns par rapport aux autres, et de façon chill, quoi. Ça, c'est le cadre. Si vous sortez de ce cadre, quel que soit, je m'en fous de vos opinions, vous savez que je ne suis pas très tenté par les valeurs, par exemple, soutenues, portées par les partis d'extrême droite. Je ne fais aucun mystère là-dessus, mais il y a des gens ici qui votent Le Pen ou Zemmour, et j'ai aucun souci avec ça. Parce que moi, je pense que le dialogue est plus important, y compris avec les gens qui ne sont pas d'accord avec moi. En revanche, je veux que les gens s'expriment correctement. Voilà. Sinon, vous sortez. Vous comprenez ? Moi, je veux bien discuter avec tout le monde, mais il faut le faire correctement, il faut faire attention aux mots qu'on écrit. Voilà, c'est tout. C'est un tout petit rappel à l'ordre pour une minorité de gens. Alors, ici, les gens qui sont habitués à cette chaîne le savent, mais de temps en temps, on arrive ici, c'est la première fois, on n'est pas là très souvent, et on pense qu'on est sur Twitter. Et on va dire des dingueries, hein, parce que ça fait du bien, ça soulage. Voilà. Mais non, en fait, ça ne soulage pas. Ça ne vous soulage pas, déjà, ça ne soulage personne. Ça ne sert à rien, en fait, ça ne sert à rien. Ça ne fait pas avancer le débat. Vos idées m'intéressent, même s'ils ne sont pas les miennes, mais il faut les exprimer correctement. On continue ? Donc, moi, ce qui m'intéresse, c'est que au sommet de l'État, on redoute d'autres drames en France. Samedi, trois alertes à la bombe ont obligé à évacuer le Louvre. Ça, j'en avais entendu parler et c'est confirmé. Où des touristes sont sortis paniqués, en pleurs, du musée parisien. Château de Versailles, évacué. Des voyageurs à la gare de Lyon aussi qui ont été pris de frayeur. Donc on sent qu'il y a des inquiétudes. Aucune de ces alarmes n'était le reflet d'une menace avérée. Mais trois ans après la décapitation de Samuel Paty, vous savez, le professeur d'histoire-géographie, par un islamiste d'origine tchétchène, huit ans après les attentats du 13 novembre, le risque terroriste saisit de nouveau la France en état d'alerte urgence attentat depuis vendredi. Emmanuel Macron, qui est accusé de laxisme par l'opposition, notamment de droite et d'extrême droite, a demandé durant le week-end à ses ministres d'incarner, je cite, un état impitoyable envers tous ceux qui portent la haine et des idéologies terroristes. sur ordre présidentiel, une circulaire devait être transmise au ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, par Darmanin, au préfet, afin que ces préfets réunissent dans les 48 heures les groupes départementaux d'évaluation de la radicalisation et passent en revue les 5000 personnes. Voilà, on a un chiffre. Les 5000 personnes figurant dans le fichier, le fameux fichier S, des signalements pour la prévention et la radicalisation à caractère terroriste. Qu'on passe au crible ce fichier, ces 5000 personnes, un par un, avec une attention particulière portée aux jeunes hommes, c'est même très précis, de 16 à 25 ans, originaires du Caucase, comme le suspect d'Arras, où sévit un islam rigoriste doté de réseaux très structurés, très violents, dixit l'Élysée. Pour tous les étrangers dangereux, la possibilité d'une expulsion sera explorée. Ces dispositions s'ajoutent au déploiement de 7000 militaires du dispositif Sentinelle qui permettront de renforcer la sécurité des lieux sensibles. Peut-être que vous en avez vu dans les rues, dans les gares, autour des écoles. Il y a Isang qui dit, ça veut dire quoi le S de fichier S suspect suivi? On en a longuement parlé hier, ça veut dire sécurité. Mais tu vois ça en replay dans la revue de presse d'hier. Le ministre de l'Intérieur avait déjà réclamé samedi l'expulsion systématique de tout étranger considéré comme dangereux par les services de renseignement. On va passer un petit moment sur cette question de l'expulsion des étrangers considérés comme dangereux. On va voir quel est le cadre légal. Les expulsions, par exemple, vers la Russie sont maintenues en dépit de la condamnation de la France le 30 août 2022 par la Cour européenne des droits de l'homme pour avoir expulsé ou voulu expulser deux ressortissants d'origine tchétchène vers la Russie. Le ministre de l'Intérieur a dit samedi « J'assume, parfois il vaut mieux être condamné par la Cour européenne des droits de l'homme et mieux protéger les Français. » Reste à trouver un accord avec Moscou, les expulsions vers le pays ayant été interrompues depuis le déclenchement de la guerre en Ukraine en février 2022. Ouais, alors, permettez-moi de mettre un bémol. Si demain, on décide d'expulser effectivement des personnes qui se retrouvent sur 5000 personnes, là, fichées ES pour des raisons aux raisons de leur profil considéré comme dangereux sur la question du terrorisme, expulsés vers la Russie, vu nos relations avec la Russie aujourd'hui, parce que vous expulsez pas quelqu'un, c'est tout le problème, hein, notamment des OQTF, là, c'est ça, obligation de quitter, ouais, ça, OQTF, obligation de quitter le territoire français. Donc il y a ces deux choses différentes, hein. Il y a l'OQTF et il y a les expulsions, et je vais vous en parler ce matin. Vous imaginez, vu nos relations avec Moscou aujourd'hui, comment la Russie pourrait accepter qu'on expulse oui, je viens de le dire, bordel. Il y a Néonel qui dit les OQTF sont pas des expulsions. Je viens de le dire. Non, mais je pense qu'on a dû parler en même temps. Je vais vous en parler dans un instant. Vous imaginez la réaction de la Russie? Je suis pas sûr. Hein, je suis pas sûr que ça le fasse, quoi. Donc il y a les intentions, il y a les mots, mais il y a aucune chance où Moscou accepte, bien sûr, ces expulsions. Cette fermeté à tout craint de la part d'un président de la République qui s'est toujours refusé à agir sous le coup de l'émotion vise à rassurer les Français, sidérés et parfois exaspérés. Depuis vendredi, c'est le ministre de l'Intérieur qui réplique à la droite et à l'extrême droite. Le suspect Mohamed Mogouchkov, un jeune homme russe de 20 ans, on parle du terroriste d'Arras, de 20 ans, originaire d'Ingouchie, c'est-à-dire non loin de la Tchétchénie, faisait partie de ces fichiers S pour radicalisation. S'il n'a pas pu être expulsé, explique Gérald Darmanin, c'est qu'il bénéficiait, ça c'est autre chose, de la protection accordée aux personnes entrées sur le territoire français avant leur 13e année, puisqu'il y a quelques années, une loi est passée, vous ne pouvez pas expulser même des personnes soupçonnées d'actes terroristes ou de projets terroristes s'ils sont rentrés sur le territoire français avant l'âge de 13 ans. Voilà. Je crois que c'est une loi qui a été votée, si je ne dis pas de bêtises, pendant le quinquennat de François Hollande. Confirmez-moi cette info dans le chat. Et le projet de loi sur l'immigration qui est en débat actuellement au Parlement, eh bien, a priori, non c'est pas a priori d'ailleurs, a l'intention de revenir sur cette loi. Voilà. C'est Hollande ou Sarkozy? C'est sous Hollande, me dit Tedel Bezedash. Hollande, c'est Hollande ou Sarkozy? Je peux aller vérifier, mais... Ouais, valse. Donc valse, c'est ouais, valse, c'est sous Hollande. Ok. C'est valse. Ok. Donc c'est Hollande, on est d'accord. Je vais aller voir. Je retourne en Belgique dans un instant puisque vous me donnez des infos. C'est ça. Donc c'est Hollande. Ok. Pas de souci. Ok. Alors, allons voir si on a des nouvelles infos sur Bruxelles, puisque le chat m'indique qu'il y a de nouvelles infos sur l'attentat de Bruxelles. Donc, toujours ce même réflexe de vérifier, de trouver une source d'information carrée avant de donner une info. J'ai une info sur le HuffPost. Je vais aller sur le site de France Info, qui me semble être un site de qualité. Je connais un petit peu cette rédac. Alors, voilà. Vous voyez, tout à l'heure, je vous ai dit que les médias belges, notamment la RTBF, qui annonçait que le suspect était mort, on s'est rendu compte que la source, notamment évoquée par un autre média belge qui est Le Soir, était deux sources policières. Et je vous ai dit, ben, attention, parce que il faut que l'annonce soit pas deux sources policières, mais une source officielle citée, ce qui semble être le cas ici sur le site de France Info. Le suspect arrêté par la police est mort, annonce le parquet fédéral belge. Donc là, on sait qui nous annonce cette information. Et on peut, à partir de maintenant, considérer que, effectivement, cette annonce est digne de foi. Voilà. On a des précisions, d'ailleurs, sur le profil du suspect présumé. Individu d'origine tunisienne qui s'est séjourné illégalement en Belgique. Tunisien de 45 ans qui avait demandé l'asile en Belgique en novembre 2019, a précisé le ministère belge de la Justice, connu des services de police pour des faits suspects, trafic d'êtres humains, séjour illégal, atteinte à la sûreté de l'État. Mais jusque-là, pas d'indication concrète de radicalisation. D'accord. Donc on peut considérer à l'heure où nous parlons que ce suspect est mort suite à son interpellation, puisque c'est une annonce du parquet fédéral belge. On revient aux conséquences de l'attentat d'Arras. Donc je vous expliquais que le suspect de l'attentat d'Arras n'a pas pu être expulsé, ne pourrait pas être expulsé. Puisqu'il est rentré sur le territoire français avant l'âge de 13 ans. Une protection que le gouvernement entend abolir pour les personnes condamnées avec le projet de loi immigration qu'il espère faire voter au Parlement début 2024. En outre, les étrangers qui ne respectent pas les principes de la République pourraient, avec ce texte qui arrive au Parlement, là, se voir retirer leur titre de séjour ou suspendre la délivrance de ce titre. Ça, c'est la réponse du législateur. Mais on va se pencher un petit peu plus loin. Sur ce cadre légal en France, sur ce gouvernement au défi des expulsions. On va parler d'expulsion, on va parler d'OQTF aussi. Et pour faire la distinction, je vous lis un petit peu. Oui, je pense, des gens s'interrogeaient sur la qualification trafic d'êtres humains. Il y a Fantasy qui dit, je pense qu'un passeur, c'est un trafiquant d'êtres humains. Oui, je crois. Je pense que tu as raison. Damso, je suis comme toi, je me pose des questions, j'ai pas toutes les réponses. Damso se dit, mais pourquoi il portait un gilet fluo orange? C'est la question que je me pose la même question que toi, je n'ai pas la réponse. Il est soupçonné d'avoir participé à du. À l'immigration illégale en fait. Hein. Sosoman, peut-être un gilet orange pour se faire passer pour un stadier. Peut-être, peut-être, peut-être. Je vous lis, hein. Je vous lis. Ah, mais ça me fait plaisir, ça. Vous savez, parfois, je hausse un peu le ton, là, en mode papy gâteau, en disant, oui, arrêtez de... Il faut s'exprimer correctement. Ici, c'est un espace libre où vous pouvez tous vous exprimer, quelles que soient vos opinions, légales, mais correctement. Et Dame Nanol, qui m'a fait réagir tout à l'heure, nous écrit, mes excuses pour tout à l'heure, j'ai la haine un peu facile en ce moment, tu as totalement raison, et je me repens, messieurs, dames, dans le chat. Écoute, ça me touche beaucoup, parce que moi, j'ai, évidemment qu'on a tous... parfois, on perd notre sang-froid, et parfois, moi, je m'énerve tout seul aussi, hein, vous me connaissez bien. Et c'est dommage, parce que du coup, ça fait pas avancer le schmilblick et le débat, quoi. Et donc, j'aime bien ta réaction, elle est cool en vrai, parce que tu privilégies le t'aurais pu te braquer et puis te barrer, quoi. Et puis tu privilégies le souhait d'être ensemble, à essayer de comprendre ensemble l'actualité et échanger malgré nos différences, plutôt que de réagir négativement, parce que tu aurais pu aussi te braquer vu mon petit édito en mode arrêter de casser les couilles, quoi. Donc merci à toi. Vraiment. Merci Anakmoi, si tu peux. Qu'on est allé voir en raid hier soir après l'interview du président de l'ARCOM. Tu nous as fait rire parce que tu étais en train de te grimer pour appeler un brouteur, un arnaqueur, je ne sais plus. C'était drôle. Tu nous as fait super rire, c'était cool. Bravo pour ce que tu fais. Alors le gilet orange, pour se faire passer pour un stadier, il y a Baroms qui... peut-être juste pour être vu, hein, puisqu'il se filmait, il voulait aussi peut-être attirer l'attention le plus possible. C'est peut-être pas impossible. Ouais. Oui, c'est ça, en plein scotchage de tronche, exactement. C'est ce qui s'est passé hier soir. C'était drôle. On continue. Je remercie TG pour le deuxième mois d'abonnement. Culardon, joli, intéressant, pour le troisième mois d'abonnement. C'est vous 00 pour le 26e mois d'abonnement. Franck Michael Jordan, ça en fait des prénoms. Merci pour le Prime. Arnaque-moi si tu peux. Merci pour. J'avais pas vu le sub et le gentil message. Chitsuke Ishikawa, merci pour ce soutien. Merci beaucoup. Allez. Donc, qu'est-ce qu'il faut retenir de tout ça? Que l'exécutif, que le président Macron, que le ministre de l'Intérieur. Nous annonce un tour de vis, voilà, une sévérité accrue sur les personnes soupçonnées d'intention terroriste en France, voilà, avec, vous allez voir ce que vous allez voir, une possible expulsion des fichiers S, certains fichiers S, les radicalisés islamistes. Est-ce que ça va se passer vraiment? Est-ce qu'au-delà des mots, des annonces, ça va vraiment se passer? Est-ce que c'est possible? Est-ce que la loi le permet? Puisque nous sommes dans un état de droit. L'impossible expulsion des radicalisés, c'est la une du Parisien ce matin. En France, le taux d'exécution des mesures d'éloignement concernant les étrangers reste faible. Le gouvernement a annoncé hier vouloir accélérer l'expulsion de 193 radicalisés dangereux en situation irrégulière. Le gouvernement au défi des expulsions, écrit le Parisien. Les chiffres, tiens, parce que c'est ça qui est intéressant, c'est de se pencher sur la réalité des faits, sur les chiffres. Les chiffres sont éloquents, 489 personnes en France qui sont étrangères, dangereuses et irrégulières, donc se trouvent sur notre territoire, 489 personnes identifiées, bien sûr. 214 actuellement incarcérées ou privées de liberté, donc bon ben, celles-ci, elles sont déjà sous contrôle. 489, dont 214 qui sont incarcérés ou privés de liberté. Ce sont les chiffres dévoilés par le ministre de l'Intérieur. Et vous avez 193 étrangers irréguliers en attente d'expulsion parce que inscrits au fichier des personnes radicalisées FSPRT. Donc ce sont ces personnes que le gouvernement voudrait faire expulser le plus vite possible. Est-ce que c'est possible ? Ce que prévoit le droit français. On fait le point, nous dit le Parisien, sur ce que prévoit le droit. Expulsion, OQTF, de quoi parle-t-on? Parce que ça n'est pas la même chose, nous explique très bien le Parisien ce matin. Il y a deux mesures d'éloignement qui sont possibles et ce n'est pas la même chose. Ce sont des procédures administratives. Vous avez donc la fameuse OQTF dont on a beaucoup parlé dans l'actu ces derniers temps, qui est OQTF, obligation de quitter le territoire français. Obligation de quitter le territoire français, OQTF. Ça, c'est du ressort du préfet. Ça vise les personnes en situation irrégulière. On ne parle pas forcément de terroristes là, hein, on est d'accord. Absence de titre de séjour, demande d'asile définitivement rejetée. Quelqu'un me dit c'est jamais appliqué, c'est vrai. On va en parler. La seconde mesure, c'est l'expulsion. L'OQTF se fonde sur la situation administrative de la personne. Tu es en situation régulière ou tu es en situation irrégulière, voilà. Alors que le critère de l'expulsion, c'est autre chose, c'est une menace grave à l'ordre public. Vous voyez que ce n'est pas la même chose. Un étranger en situation régulière peut être expulsé d'ailleurs, sans délai, si la préfecture ou le ministère de l'Intérieur estime qu'il présente un danger suffisamment grave pour l'ordre public. Ce fut le cas, exemple, de l'imam marocain Hassan Ikyosen, expulsé en janvier en raison de la teneur de ses prêches, bien que vivant légalement en France. Donc tu peux avoir des papiers, être en situation régulière et être expulsé. Et c'est là où on voit que OQTF et l'expulsion, ce n'est pas la même chose. Merci Thibaut, c'est trop gentil. Alors, dans le chat, certains, Nico Manga notamment, disaient oui, mais. Alors, désolé, ouais, pour les sons, t'as raison. Alors, j'ai un problème de table de mixage, j'ai changé ma table de mixage récemment parce que j'ai renversé du coca sur l'autre. Voilà, donc c'est pas la pièce, je pense que c'est le réglage de la table de mixage, c'est pas moi qui ai fait les réglages, donc j'ai peut-être une voix un petit peu grave en ce moment. Mais comme l'actualité est grave. Voilà. Bon, je vais essayer de régler ça, mais pour le coup, j'ai mis du coca partout. Alors, est-ce que ces mesures sont suivies d'effets? Pas tellement. Voilà. Pour les OQTF, la réponse est non. En 2020, écoutez les chiffres, 107 488 mesures ont été prises. 107 000 OQTF. Combien ont été exécutés? 7376. Vous avez un taux d'exécution des OQTF de 6,9%. Ah. OQTF décidés, 7300 exécutés, taux d'exécution 6,9%. Ça n'est pas beaucoup. Qu'est-ce qui se passe? La France. Oh, il y a Wikicoca qui dit la Macronie brasse du vent fort, on s'en doutait. C'est pas là, mais c'est comme ça depuis toujours en fait. On a toujours eu ce taux d'expulsion des OQTF ridicule en fait. La France n'a pas les moyens humains et financiers de sa politique, mais tout le monde s'en accommode. Vous allez voir, il y a beaucoup de non-dits dans cette histoire. Des secteurs comme la restauration, la santé, l'aide à domicile, le bâtiment, la livraison, un petit vélo, tout ça là, ne survivrait pas si on éloignait tous les étrangers en situation irrégulière en France. Voilà. Donc, d'abord, il y a des gens qui n'ont pas forcément envie que tous les étrangers en situation irrégulière en France soient expulsés pour des raisons économiques. Et puis, il y a un autre problème pour les OQTF qui n'est pas abordé par le Parisien ici, c'est quand même dommage. Pour pouvoir faire quitter le territoire à quelqu'un, il faut que, comme le dit Sadine Live, que le pays de destination accepte, voilà, hein, que l'ambassade du pays accepte en fait, voilà. Et bien souvent le pays, et ça a été un sujet de tension avec les pays d'Afrique du Nord, Algérie, Tunisie, Maroc ces dernières années avec la France, bah, bien souvent le pays dit bah non, il dit bah non, ça va en fait, voilà. Donc d'où ce faible taux d'exécution des OQTF. Du coup, du côté du ministère de l'Intérieur, on préfère mettre en avant un autre chiffre plutôt que celui des OQTF, c'est celui des expulsions. Ça, c'est autre chose. 2475 éloignements d'étrangers troublant l'ordre public fin août contre 3615 en 2022. Le discours de Darmanin depuis l'attentat se focalise sur le profil des étrangers potentiellement dangereux. Vous avez compris, OQTF, ça vise les gens qui sont en situation irrégulière sur le territoire. L'expulsion, on parle là de personnes présentant un danger pour la sécurité du pays. À noter que les réticences de certains pays à accueillir leurs ressortissants peuvent aussi freiner les mesures d'éloignement, mais à culpa, le Parisien en parle. Voilà. Et je vous lis un petit peu sur ce sujet qui crée parfois des tensions. La question de l'immigration, essayez d'en parler de façon respectueuse, s'il vous plaît, quelles que soient vos idées. Je vais me faire un petit café aussi parce que j'ai la gorge qui pique. Il y a Tropical Dartfoy qui dit mais les étrangers en situation irrégulière peuvent travailler en France? Normalement non, mais dans les faits, si. Voilà. Il y a beaucoup d'entreprises, dans la restauration, dans le bâtiment notamment, entre autres, hein, qui acceptent de faire travailler des personnes sans papier, comme on dit, hein, en situation irrégulière. Voilà. Donc, et parfois aussi, des gens qui ont des faux papiers, qui ont les papiers d'un ami, qu'on leur a prêté, voilà. Et l'employeur ou se fait berner ou ferme les yeux parce que ça l'arrange bien. Donc bien sûr, bien sûr. Alors il y a Chicho Hiro qui s'en prend au discours de certains élus d'extrême droite qui disent que c'est super simple, en fait il suffit d'expulser les gens. Je crois qu'une représentante du RN a notamment déclaré qu'il fallait expulser tous les fichiers S. Alors déjà ça veut rien dire parce que les fichiers S c'est aussi des militants, ça peut être des militants de gauche, ça peut être des militants écologistes qui peuvent être fichiers S, soupçonnés qu'ils sont de mettre aussi en danger la sûreté de l'État, donc a priori il n'est pas prévu d'expulser les militants écologistes en France, donc ça c'est une énorme connerie. Déjà, quand on dit cette phrase, il faut dire moi je souhaite par exemple, imaginons que ce soit Marine Le Pen, imaginons au hasard, moi je souhaite que tous les fichiers S soupçonnés de radicalisation terroriste et islamiste soient expulsés. Déjà, la phrase est un peu plus correcte, parce que fichier S c'est un raccourci qui veut rien dire, et après on se rend compte que c'est plus compliqué que ça n'est. Voilà. Je suis sur le Parisien, ami Mojojo. D'ailleurs, subitement, j'ai un truc qui pop dans le cerveau, puisqu'on a lu hier que il y avait des gens qui étaient fichés S en France, soupçonnés d'appartenir à l'ultra-gauche ou à des mouvements écologistes, parfois un petit peu remontés, participer à des manifestations qui peuvent être violentes. Hein. Voilà. Alors, on peut être aussi fichés S quand on est une connaissance de cette personne. Voilà. C'est-à-dire quand vous avez été en contact téléphonique ou autre avec une personne fichée S, vous pouvez aussi être fichée S. Vous, d'ailleurs, peut-être que vous êtes fichée S dans le chat. Voilà. J'ai peut-être 3626 fichiers S. Ça, c'est pas des bêtises, c'est un truc qu'on a lu hier qui est documenté. Voilà. C'est une espèce de surveillance, quoi, en vrai. Voilà. Donc, c'est pour ça qu'on va pas expulser tous les. Il y a des journalistes qui sont fichés S, par exemple. Tout à fait. Voilà. Et alors, du coup, dans ma tête, je me suis dit, il y a sûrement des gens d'ultra-droite ou d'extrême-droite qui sont fichés S en France. Donc, je me dis que ceux à extrême-droite qui souhaitent l'expulsion de tous les fichés S, peut-être qu'ils n'ont pas pensé à ça, quoi. Voilà. Non, j'ai juste un truc à pop comme ça, là. Ah, moi, je suis pas fiché S, moi. Je fiche rien du tout, moi. Enfin, je pense pas. D'ailleurs, on le sait pas. Hein. Quand on est fiché S, on le sait pas. C'est secret défense. Bon, les amis, on continue avec notre actualité super réjouissante en ce moment. J'en suis désolé, mais bon, c'est pas moi qui fais l'actu. On va aller au Proche-Orient. Mais j'ai la gorge qui pique. Ça fait 1h36 qu'on parle. Donc, les amis, je vais aller me chercher un petit café. Voilà, un petit crocodile Haribo. J'en ai pour 2 minutes. Ça va être super rapide. Et puis, on continue avec, je vous montre quand même le sommaire. Le Proche-Orient, c'est très important de faire le point sur ce qui se passe au Proche-Orient. La Pologne. Au début, j'étais pas hypé par ces élections en Pologne. Et en fait, c'est passionnant. Voilà le conséquence de ces élections. L'économie polonaise, alors moi j'ai appris que l'économie polonaise c'était un banger, ça se passait super bien. Là j'ai appris des trucs, et puis on se penchera aussi sur les difficultés de Disney. Et si vous êtes sage, on fera même un petit horoscope, ça fait longtemps. Voilà, petite pause, 2 minutes, je vous retrouve tout de suite. La musique elle est déjà calée. Qu'est-ce qu'on avait mis comme musique sympa tout à l'heure? Ah, elle est là. On se retrouve dans 2 minutes, ok? Bande de belles personnes. Ciao, ciao. Pas trop fort, hein? Voilà. Voilà. A tout de suite.
Even if you've been misled, tell of your dreams.
C'est bon ça, hein? Oui, c'est bon ça. Settle your regrets, non-state actor. Voilà. C'est la musique. Pas mal ça. On se la remettra pour le raid tout à l'heure d'ici une heure et demie. Alors, désolé, j'ai eu une urgence. L'école en ce moment est bouleversée en France en raison de la situation que vous savez. La menace terroriste rehaussée d'un cran. Et du coup, la piscine, en ce moment, les petits chouchous, ils vont à la piscine là, du côté de Malo, avait été annulée. Et finalement, elle a été rétablie. Voilà, et donc, il faut emmener des maillots à l'école tout à l'heure à la pause du midi. Voilà, pour Malo et éventuellement pour les autres chouchous hein, qui n'ont pas de maillot de bain. Voilà. Donc, c'était un dossier qu'il fallait gérer. Et donc, j'en parlais avec la famille. Voilà. Ouais, c'est chaud ouais, pour les chouchous en ce moment. Ouais. Acu m'appelait, merci pour le deuxième mois d'abonnement. TJ9269, merci pour le deuxième mois d'abonnement. Merci du soutien. J'espère que Malo va pas faire de bombes. Ah, si, si, la piscine, c'est pour faire des bombes. Les bombes, on est d'accord, la piscine, vous avez la ref. Hein, c'est, on saute, on se met en boule et on fait une bombe. Ok ? Non, parce que. Salut Étienne. Ouais, appelle-moi Samuel quand même. Étienne, c'est mon nom de famille. On y va ? On continue ? Allez, c'est parti. On a parlé. Oui, vu le contexte, il vaut mieux préciser tout à fait IMU. Ouais, c'est intéressant la question de Waresma qui dit d'ailleurs en tant que papa, tu ne tombes pas dans la psychose par rapport à tout ça. Oui, enfin un peu, forcément, comme tout le monde, comme tous les parents, comme tous les. Même sans être parent d'ailleurs. On sent qu'en France, eh bien on est peut-être revenu dans une séquence où on va de nouveau faire attention quand on est dans des espaces publics, quand il y a du monde, quand il y a les terrasses du café, quand voilà, on sent, voilà, peut-être. Vous savez, après les attentats du Hamas et après la réplique de l'armée israélienne sur la bande de Gaza, on évoquait cette idée dans les articles, c'est est-ce que ce conflit peut être importé en France ? Il y a des gens qui m'ont dit, mais ça veut dire quoi ? Ce conflit peut être importé en France. Je dis, ben, c'est si en France il y a des conséquences de gens qui s'inspiraient de ce qui se passe au Proche-Orient pour commettre des choses, quoi. Voilà. Ben voilà, c'est fait. Puisque le gouvernement soupçonne notamment le terroriste présumé d'Arras d'avoir commis son attentat en lien avec les situations au Proche-Orient. Voilà. L'importation du conflit proche-oriental, c'est ça en fait. Voilà. Peut-être que ce qui s'est passé à Bruxelles, c'est ça aussi. Voilà. Donc c'est très concrètement, c'est exactement ça. Donc on vient de rentrer dans cette séquence. Et c'est pas top. On y est justement au Proche-Orient. MG qui dit aucun lien, Sam. C'est pas ce que dit les messages du terroriste de Bruxelles, puisqu'il a laissé des messages. Et c'est pas ce que dit le gouvernement non plus. Moi je ne fais que citer les gens, mais. Quand même, non ? Et peut-être, on se pose quand même la question. Quels sont les. Non, je sais pas. On est d'accord que le terroriste présumé de Bruxelles a laissé une vidéo ? Non ? Ou il dit quoi d'ailleurs ? On va aller voir. Alors, terroriste. Ah, nul mon crible, je trouve pas. On l'a lu tout à l'heure pour l'instant. C'est plutôt lié aux autodafés du courant en Suède. Ok, d'accord. Ok, ok. Intéressant. Donc lui dont ces messages n'évoqueraient pas déjà les Palestiniens. Ça, c'est une info importante. Ok. Dans la traduction de son message. Hein. Ouais. Ok. Alors, pour ce qui est du Proche-Orient, qu'on va évoquer tout de suite, là, c'est le gouvernement français, en fait, qui dit, Darmanin l'a dit vendredi, Elisabeth Borne l'a dit hier, qu'il y aurait un lien, ça c'est la position, l'analyse du gouvernement français, entre le conflit proche-oriental et l'attentat d'Arras. On suivra ça dans les prochains jours, bien sûr. Israël sur le chemin de la guerre. Alors, sur le chemin, certains diront qu'Israël est déjà en guerre. Qu'est-ce que sont les bombardements actuels sur la bande de Gaza dont on va évoquer le dernier bilan, sinon une guerre qui a déjà débuté. Moi, je parle facilement des tensions au Proche-Orient, du conflit proche-oriental. Dans les journaux, ce matin, certains disent, ils ont peut-être raison, la guerre au Proche-Orient, quand on voit le nombre de victimes de part et d'autre, ça ne me semble pas totalement déconnant. Israël sur le chemin de la guerre, pourquoi ? Parce qu'il y a quelque chose qu'Israël n'a pas fait encore, c'est une offensive terrestre massive sur la bande de Gaza pour aller frapper le Hamas. Cette offensive terrestre n'a pas débuté, c'est ce que veut dire le Parisien. L'opération terrestre de l'armée dans la bande de Gaza, d'où est partie l'attaque du Hamas, on le rappelle, n'est désormais plus qu'une question de jours. Le Parisien est sûr que cette opération terrestre va se faire. Prudence en fait, on est sûr de rien. Il y a la question des otages notamment, on va en parler. Partout dans le pays, les hôpitaux israéliens, les citoyens israéliens s'y préparent. Des trombes de pluie se sont abattues sur le sud-ouest d'Israël ce lundi pour la deuxième journée d'affilée. Vous allez me dire, mais qu'est-ce que vient faire la météo là-dedans? Vous allez comprendre. Tsahal, l'armée du pays, patiente. Trop difficile pour les drones et pour leurs pilotes de couvrir les troupes au sol dans ces conditions. L'objectif de l'opération d'ampleur qui se dessine sera d'anéantir les infrastructures et les dirigeants du Hamas, dont les terroristes ont mené il y a 10 jours, le 7 octobre, le raid le plus meurtrier de l'histoire d'Israël, avec plus de 1400 victimes, en majorité, écrasante majorité des civils. Il s'agira aussi de sauver tant que possible les 200 otages, on va en parler ce matin. Donc, offensive terrestre ou pas, le Parisien est sûr qu'elle va avoir lieu. Moi, je pense qu'il faut être un peu plus prudent que ça, mais on verra. Notamment parce qu'il y a la question des otages, mais pourtant Lacroix nous dit ce matin que les familles des otages, qu'ils soient israéliens ou étrangers, sont extrêmement inquiets parce qu'ils ont l'impression que cette question des otages est très secondaire pour l'actuel gouvernement israélien de Benjamin Netanyahou. Les familles des otages retenus à Gaza se heurtent à un gouvernement israélien qui a fait de l'élimination du Hamas sa priorité. Selon l'armée israélienne, 199 personnes ont été capturées par le Hamas lors de l'attaque sanglante du 7 octobre. L'angoisse et la colère de leurs familles grandissent face à l'inertie du gouvernement qui a fait de l'élimination du Hamas sa priorité. ...199 personnes seraient au total retenues captives par le Hamas, a donc annoncé hier le porte-parole de l'armée israélienne, Daniel Hagari, revoyant à la hausse un bilan précédent qui était de 165 personnes. Des soldats, otages, mais aussi des enfants, des femmes. Excusez-moi, parfois les gens se perdent dans le chat. Des personnes âgées, des personnes malades. À ce jour, ça c'est inquiétant, aucun canal de négociation pour libérer les otages n'a été évoqué par Israël. Alors aucun canal officiel, hein, parce que parfois les négociations se passent de façon très discrète. En tout cas, le chef du Conseil de la Sécurité nationale a déclaré samedi qu'il n'y avait aucun moyen pour l'instant d'avoir une négociation avec le Hamas. Des propos qui ont suscité la colère des familles, cela signifie purement et simplement que le gouvernement a choisi comme stratégie d'abandonner les captifs, les disparus, dénonce un ancien député travailliste israélien, les porte-parole des familles qui se sont rassemblées d'ailleurs en un forum des familles d'otages et disparus qui s'organisent elles-mêmes afin de faire pression sur le gouvernement, sur la communauté internationale pour demander leur libération. Le premier ministre israélien, lui, donc Benjamin Netanyahou, est resté étonnamment silencieux, semblant même éloigné du sujet. Il n'a pris le temps de rencontrer les représentants des familles des disparus que 8 jours après l'attaque. C'est étonnant quand même. Vous vous rendez compte ? Benjamin Netanyahou leur a assuré que la libération des leurs était l'un des buts de guerre, sans préciser l'ordre des priorités. Cette situation avec les otages est la plus complexe à laquelle Israël n'ait jamais été confronté dans son histoire, estime Michael Milstein, qui est le chef du Forum des études palestiniennes de l'Université de Tel Aviv. En temps normal, la priorité d'Israël, je vous le disais tout à l'heure, serait le retour des otages, des citoyens captifs, mais aujourd'hui, les efforts sont explicitement concentrés sur l'élimination du Hamas en tant que menace militaire à l'heure actuelle. Ni Israël, ni le Hamas ne seraient d'humeur à négocier. Le groupe islamiste a par ailleurs menacé d'exécuter un otage chaque fois qu'une frappe aérienne israélienne tuait des civils palestiniens sans avertissement. Pour l'instant, il n'y a aucune preuve qu'il l'ait fait. Voilà. Voilà où on en est de cette crise des otages. Je vous lis. Je vous appelle à la retenue et à la correction de vos commentaires sur ce sujet brûlant, comme d'habitude, bien sûr. D'autant que les otages ne sont pas tous israéliens. Walk my cloud, tout à fait. Mais c'est vrai que les déclarations du Premier ministre israélien inquiètent au plus haut les familles. Il y a Matt Merzon 74 qui pose la question, vous êtes de quelle idéologie politique ? Alors moi personnellement je suis anarcho, libéraux, crypto, socialo, radical, républicain, un peu de Second Empire un petit peu, parce que c'est une période qui me fascine. Sectaire, très. J'ai un peu tout ça. À peu près. Dans chaque courant que je viens d'évoquer, avec des obédiences particulières, parce que je refais ça un petit peu à ma sauce. Ouais. Je fais au plus simple. Hein. Je vous lis sur cette question des otages. Voilà, un homme avec des convictions fortes, exactement. C'est ce que je suis. C'est ce que je suis. Icône se régale, MDR, t'es très... On dit encore MDR ? T'es très mainstream quand même. Alors après, je pourrais donner une couleur politique très nette à ma chaîne. Certains m'accusent d'être un dangereux gauchiste, d'autres un dangereux droitard, on dit ça, droitard. Voilà, ça me va bien d'être accusé d'être d'un côté ou de l'autre, comme ça, ça veut dire que finalement, je fais pas si mal mon travail. Alors, je pourrais faire de cette chaîne une chaîne avec une forte couleur éditoriale, pour ne pas dire politique, mais ce serait autre chose, un autre projet. Voilà, ça existe d'ailleurs, je pense que vous avez des chaînes comme ça, avec des gens qui professent des idées extrêmement claires et affirmées sur leurs opinions, sur leurs convictions, ce qui n'est pas tout à fait le projet ici, qui est plutôt de s'intéresser à l'actualité ensemble, quelles que soient nos différences de convictions et de valeurs. Voilà. Alors ça veut dire que je me retrouverai en grosso modo assez rapidement qu'avec des gens qui pensent comme moi. Ce serait passionnant. J'adore cette idée. Cette idée. Toi aussi, tu penses comme moi ? T'as tellement raison. C'est un... Hein, on est quand même bien, hein, on est bien là. Hein. Non, en fait, je suis pas très séduit par cette idée, en fait. Voilà, j'ai mes opinions, voilà, depuis longtemps, c'est un peu toujours les mêmes d'ailleurs. Je les remets un petit peu en question quand même régulièrement. Mais en vrai, créer une chaîne bien identifiée avec un public qui me ressemble vraiment à 100%, à se taper sur le ventre en disant, hey, on est tellement du bon côté, bah, pas trop mon kiff en fait. Voilà. Bon, ouais. Bah, pourquoi pas, hein. Mais, je crée une deuxième chaîne alors. Tu vois, plutôt. Ah, des nouvelles de la piscine. pardon, c'est parce que donc la piscine a finalement été annulée pour les enfants, finalement elle a été rétablie par l'école, et donc mon amoureuse me dit, et le Malo va être trop déçu parce qu'il aime pas trop la piscine parce que l'eau est froide. Voilà. On continue sur ce sentiment, je redeviens sérieux parce que c'est bien de dire des conneries, ça me le tienne, mais ayant une pensée pour les familles de ces otages là. Les jours prochains, on va quand même annoncer des nouvelles de dingue. Hein. Entre c'est Julien Pain, qui est journaliste à France Info, qui est avec nous vendredi soir, qui lui voit plein d'images qu'on ne diffuse pas à la télévision française, tellement elles sont horribles. Voilà, on ne vous montre qu'une partie. Hein. C'est pas de la censure, c'est juste qu'en fait, c'est des images qui seraient illégales, puisqu'on peut pas montrer n'importe quoi, tellement c'est violent, quoi. Donc c'est juste encadré par la loi. Sauf que les journalistes, eux, qui sont tenus de s'informer et de débunker et de vérifier les infos, eux, les voient, ces images, notamment les gens qui travaillent sur le debunk et les fake news. Et Julien nous racontait vendredi soir qu'en ce moment, ce qu'il regarde, c'est vraiment très, très, très chaud. Voilà, certaines images que vous pouvez retrouver sur les réseaux sociaux qui ne sont pas modérées comme les chaînes de télévision françaises et notamment sur le service public. Voilà. Et Julien nous disait... Préparez-vous, ou plutôt préparez-vous à fuir les réseaux sociaux dans les prochains jours. Il y a Defecator qui est avec nous, qui fait un gros travail de debunk sur YouTube et sur Twitch, qui nous dit c'est pareil chez moi. Préparez-vous à fuir les réseaux sociaux dans les prochains jours, parce qu'à un moment vous allez voir débarquer des choses sur vos écrans. Voilà, notamment peut-être avec des vidéos envoyées par le Hamas. Vous savez que le Hamas a filmé les attaques contre les Israéliens. Voilà. Et on pourrait demain décider de filmer des images liées aux otages. Voilà. Donc ça peut arriver bientôt sur vos écrans. Attention. Curias, merci beaucoup pour le soutien. Acumaplay, merci pour le soutien. Allez, je vous parle d'autre chose. Alors c'est un peu moins dramatique. Je vais vous parler de la Pologne. On reste à l'étranger. Avec ces élections qui, sur le coup, moi, m'ont pas tellement intéressé. Puis finalement, je me suis rendu compte que c'était important. Pologne, il y avait des élections générales et l'opposition démocratique a gagné. Alors, c'est un peu flou, mais globalement a gagné. Les sortants du PiS s'accrochent. Alors, le PiS, c'est le Parti National Conservateur au pouvoir, hein, depuis 2015. Alors, vous allez m'épargner, bien sûr, les blagues. Non, mais... Oh, bah c'est comme ça, c'est le peace. Bon, alors c'est pas le One Piece, c'est pas le Peace and Love, c'est le Peace, P-I-S. Voilà. Lors de législatives marquées par une participation record, et ça c'est une bonne nouvelle quand les citoyens votent, une coalition formée par trois partis a donc réussi à s'imposer en Pologne. Voilà. Pourtant arrivé en tête, le Parti National Conservateur, donc le PiS, qui dirigeait le pays depuis 2015 quand même, retrouve sans allié, mais n'est pas prêt à lâcher le pouvoir. C'est la fin du règne du PiS, a exulté Donald Tusk, à ne pas confondre avec l'autre, alors que l'opposition démocratique polonaise, dont il est Donald Tusk, une des principales figures, émergeait victorieuse des élections législatives, puisque lundi soir, 90% des bulletins étaient dépouillés. Quelqu'un me dit, on dit Tusk. Vous êtes sûr ça? Ah, je croyais que c'était PiS qui se disait Tusk. Je dis comment ça? Ah, c'est Tusk, on dit Tusk. Ok, il est polonais, on dit Tusk. Ok. Ah bah du coup ça nous amène moins vers l'autre. Ok. Donc Donald Tusk. Ok. À vos souhaits. Donc 90% des bulletins dépouillés et on a le parti. Au pouvoir, donc droit et justice, le PiS, le Parti National Conservateur, qui n'a que 36,4% des suffrages, pas assez de sièges donc pour gouverner seul. Les trois partis d'opposition démocratique, eux, sont en mesure de former un gouvernement de coalition. Hein. Vous avez la coalition civique libérale centriste qui s'appelle KO. KO, c'est quoi ces noms de partis en Pologne? Il y en a un, c'est PiS. L'autre, c'est KO. KO. Hein. Mais où vous allez chercher vos noms de partis, les Polonais? Attendez, on continue parce que j'ai d'autres partis qui arrivent. KO, comme knock out. KO. Voilà. Du coup, Camille KO, bien sûr, le PiS. Ça n'a aucun sens. Donc, vous avez KO. Donc, là, c'est libéraux centristes, 29,7%. Vous avez un parti qui s'appelle la troisième voie. Pas la deuxième, pas la quatrième, pas la cinquième, la troisième voie. Qui obtient 14,5%. Alors, ça, c'est un parti, me dit Libération. C'est une formation agrarienne et chrétienne-démocrate. Alors, chrétienne-démocrate, je vois à peu près agrarienne, agraire, ça nous emmène du côté du monde agricole, ça. Agrarienne, je vérifie. Agrarienne, c'est ça. Voilà, partisan du partage des terres entre ceux qui les cultivent. Ah, d'accord. Se dit des partis politiques qui défendent les intérêts des propriétaires fonciers. Ah, c'est pas tout à fait la même chose. Donc, on est sur le terrien. Ok. Hein, se dit, me dit Larousse, des politiques qui défendent les intérêts des grands propriétaires terriens. Ah, ok, d'accord. Bon, donc vous avez KO, vous avez la troisième voie, et attention, quel est le nom du dernier parti de la coalition qui a gagné? Eh bien, c'est la Nouvelle Gauche. Bon, bah là, c'est bon, ça va, quoi. 8,4%. Dans une telle configuration, le nombre de députés de la coalition, ce serait de 249, donc on est au-delà de la majorité absolue, qui est de 231, voilà, nécessaire pour former une majorité à la Diète polonaise, puisque l'Assemblée en Pologne s'appelle la Diète. Le parti d'extrême droite libertarien Konfederacja, qui espérait renverser la table, tiens, ça me rappelle quelqu'un, ça. Parti d'extrême droite qui souhaitait aux dernières élections en France renverser la table, qui finalement, au niveau du score, c'était pas ça, mais je me rappelle plus comment ça s'appelait. Bon, bref. Eh bien, donc, ce parti d'extrême droite n'a disposé finalement que de 7,2% des voix, alors qu'ils espéraient de 10 à 15%. Ça me rappelle quelqu'un qui avait dit qu'il serait au deuxième tour. Dernière présidentielle. Un homme, je crois. Qui avait dit qu'il serait au deuxième tour. Il disait que les sondages se trompaient, que les sondages mentaient, et que vous allez voir ce que vous allez voir, je serai au deuxième tour. Puis finalement, il a eu, moins, je ne me rappelle plus, je ne sais plus comment il s'appelle. Bon, ouais, ça me revient. Après 8 années de national-populisme teinté de dérives, elle était un peu gratuite celle-là, je me suis fait plaisir. Après 8 années de national-populisme teinté de dérives autocratiques, et de relations exécrables avec Bruxelles, le soulagement au sein de l'opposition démocratique est palpable. Une prouesse pour l'opposition, alors que ces élections, s'ils n'ont pas été frauduleuses, restent entachées d'un profond déséquilibre. Donc en fait, c'est des élections un peu compliquées. Pourquoi ? Parce que la télévision publique polonaise, la TVP, était un relais puissant de la propagande du PiS, hein, a agité l'épouvantail migratoire, et a dépeint Donald Tusk, le chef de l'opposition, en ennemi national. Parce qu'on dit Donald Tusk. Un jour, j'ai entendu un gars dire Donald Tusk à propos de cet élu polonais, là. On est en Pologne, les gars. Tusk, tout le monde le sait, ça. C'est dingue, ce manque de culture politique, même d'intérêt, je dirais, pour l'actualité internationale. Le ringard, exactement. Mais oui, honte à lui. Moi, je vais vous dire, ça me débecte. Attends, je suis en train de perdre le refroidissement de mon PC.
Reste là. Ça va bien se passer.
Voilà. Moi, ça me débecte, les gens qui font pas attention à la prononciation. Oui, le nulos, exactement. Voilà. Il faut être vraiment fermé l'esprit pour dire ça. Voilà. Exactement. Ouais, exactement. Je ne sais plus qui c'était. Je me rappelle d'un bel homme, mais je ne me rappelle plus de son nom. Curias, merci pour le soutien. Alors, bonne nouvelle encore. C'est pas très clair ce que dit Shisho Shiro. Pas très clair ce que tu dis, c'est pas très clair. Je pense que tu peux exprimer ça de façon un peu plus intéressante. À l'échelle du pays, la participation fut inédite depuis 89, c'est une bonne nouvelle. 73,8%. le plus grand signe de la victoire démocratique de l'avis d'un analyste qui donne de l'espoir non seulement à la Pologne, mais aussi toute la région. Cela va permettre à la Pologne de retrouver sa vraie voix sur la scène européenne. Scrutin crucial, le plus important depuis la fin de la dictature communiste. Un troisième mandat du PiS aurait consolidé la tendance illibérale à l'œuvre depuis son arrivée au pouvoir en 2015. Des dérives se sont multipliées depuis l'arrivée du PiS au pouvoir. Appareil judiciaire politisé, audiovisuel public mis au pas, IVG rendu quasi illégal en Pologne, sans compter la politisation des services en uniforme, de la banque centrale, l'opacité sans précédent des finances publiques, le bras de fer avec l'Union européenne pour non-respect de l'état de droit. Un vaste chantier attend la nouvelle majorité. Au programme, relever l'état de droit piétiné en Pologne, émanciper un appareil étatique qui a été mis au service d'un parti, donc le PiS, légiférer sur les droits à l'IVG. Alors, donc, a priori, on comprend que l'opposition démocratique a gagné. Sauf que ça ne va pas se faire tout seul et tout facilement, puisque les entraves semées par le parti qui était au pouvoir, le PiS, donc, ne disparaissent pas pour autant. Le président polonais, Andrzej Duda, qui peut user de son droit de veto, pourrait tenter de jouer l'obstruction. Se pose aussi la question du tribunal constitutionnel, la plus haute instance judiciaire du pays, constituée pour la plupart de proches du PiS. Voilà. Du coup, je me pose une question. Quand les responsables de ce parti, le PiS, sont un peu en fin de carrière, est-ce qu'on dit qu'ils ont été finis? Non, excuse-moi. Aucun parti ne souhaitant former de coalition avec le PiS. Il devra donc tôt ou tard céder le pouvoir, mais dans les semaines à venir, le pays risque d'entrer dans une période de turbulence, car même si elle est majoritaire, tout porte à croire que l'opposition... ne pourra pas accéder à l'appareil gouvernemental de sitôt. La passation de pouvoir ne se fera sans doute pas sans heurts. Andrzej Duda, donc le président, qui est lui-même issu du PiS. Changez de nom, bordel. Changez-moi. Regarde, les gens qui si vous me regardez en Pologne, changez-moi ces noms de parti, c'est pas possible. Hein. Le parti KO, le parti PiS. Pensez à nous, quoi. Andrzej Duda, lui-même issu du PiS, risque probablement de désigner un Premier ministre issu du parti qui a remporté le plus de suffrages, donc le sien, ce à quoi la majorité des partis s'opposerait avec un vote de confiance défavorable. Donc, voilà, il pourrait y avoir un petit peu de résistance du côté du PiS. Ah, on dit PiS ? Ça m'arrangerait, hein, en vrai. C'est vrai. Il y a des gens qui connaissent un peu la Pologne. Dites-moi qu'on ne prononce pas PiS et qu'on dit PiS. Dites-moi, est-ce qu'il y a des gens qui vivent en Pologne, qui connaissent la Pologne ? Dites-moi qu'on prononce ça autrement, qu'on en finisse avec le nom de ce parti qui s'appelle PiS. Ah non, il y a Amilov qui dit on dit PiS. Oh, putain, c'est affreux. Il y a Indy qui dit je vis à Varsovie, on dit PiS. On dit PiS. Oh là 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 là. Il y a Néon avec qui dit non, en polonais on dit pipi. Ok, super. Ou alors PIS. Ouais, PIS. Là, non, c'est pas PIS. Le RPR, il y avait des petits points. Il y avait R.P.R. Là, il n'y a pas là. C'est PIS. Désolé. Ouais, ouais. Terrible. Le petit as vit en Pologne, il me dit on dit PiS. Ah ouais, tant pis. Hein ? Je l'ai pas. Défécateur, je l'ai pas la blague là. Mais il a pas servi la soupe au PiS turc. Ah, PiS. Bref, il a pas servi la soupe. Oh, les techniques, celle-là. Oh, défécateur. Bref, il a pas servi la soupe au PiS turc. Donc, turc, c'est l'opposant. C'est la soupe au PiS tout, c'est ça ? Oh là là. Oh, c'est technique. Hein. Pardon. Bon, alors, ceci étant dit, oui, t'as raison de ne pas être fier. On va aussi s'intéresser. Alors, moi, j'ai vraiment été vraiment vachement intéressé par cet article dans les Échos maintenant sur la santé économique de la Pologne. Et moi, j'ai appris plein de trucs en fait, parce que bon, c'est vrai qu'on ne peut pas dire que les médias français parlent souvent de la Pologne. D'ailleurs, on ne peut pas dire que les médias français parlent beaucoup des pays à l'Est, hein, d'une façon générale. Bon, sauf un peu de l'Ukraine et de la Russie ces derniers temps. Et là, vous avez un papier sur la Pologne. Et moi, j'apprends en fait que l'économie polonaise est dans une forme incroyable, quoi. Let's go. La Pologne, métamorphosée par 30 ans de miracle économique. Le pays s'est spectaculairement rapproché des standards de l'Ouest, au point qu'il n'est plus vraiment considéré comme un pays à bas coût aujourd'hui. La victoire annoncée par l'opposition aux législatives pourrait permettre de débloquer les fonds européens qui seraient un apport crucial pour l'économie polonaise, quoi. Le cliché du plombier polonais va-t-il disparaître ? À moins d'être allé en Pologne récemment, les Français n'ont probablement pas réalisé à quel point le pays s'était profondément transformé au cours des dernières décennies. Moi, je ne le savais pas, ça. Quelques chiffres suffisent pour comprendre que la République de 38 millions d'habitants... Oui, Bakou, Azerbaïdjan, j'ai compris la vanne, merci beaucoup. Ça va arrêter, c'est les blagues de questions pour un champion, ça va arrêter, arrêter. Venez jouer à question, là, c'est vraiment des blagues de candidat question pour un champion. Bakou, Bakou. Ah, fatigue, fatigue. Quelques chiffres suffisent pour comprendre que la République de 38 millions d'habitants qui s'apprête à changer de gouvernement n'est plus vraiment une économie émergente, tant elle s'est rapprochée des standards de l'Ouest. Hein ? Depuis l'entrée dans l'UE en 2004, écoutez bien les amis, la Pologne est passée du 9e au 6e rang dans les classements du PIB des pays de l'Union européenne. Les Polonais sont au 6e rang au classement des PIB. Hein ? Devant la Belgique, devant l'Autriche, devant la Suède. Voilà. Exception parmi les pays occidentaux, la Pologne n'a connu aucune année de récession jusqu'à la pandémie de Covid. Même pendant la crise économique de 2008-2009, l'économie a continué à croître. Alors si on rapporte au nombre d'habitants, parce que ça c'est le PIB au niveau d'un pays, ah bah voilà, Diesel dit mais par habitant ou en valeur absolue ? Valeur absolue. Par habitant maintenant, la richesse nationale est encore loin derrière la France ou l'Allemagne, mais le rattrapage en cours est spectaculaire. En 2000, le PIB par tête polonais atteignait à peine 29% de la moyenne de l'UE. Là, on est passé à 46%. Le PIB par habitant, puisque vous en parlez, a dépassé celui de la Grèce. Les Polonais, chaque Polonais en moyenne est plus riche qu'un Grec. C'était en 2016, même, c'était il y a longtemps. Le PIB par habitant en Pologne a dépassé celui du Portugal, chez les amis portugais, en 2021. Si on continue à ce rythme, il n'est pas impossible que la Pologne rattrape l'Italie au début de la prochaine décennie. On peut parler d'un miracle économique pour la Pologne, c'est ouf. Hein. Une croissance aussi forte et régulière sur une période aussi longue, c'est exceptionnel, dit-on. Incroyable. Tu vois, il y a Clamakin qui me dit à Varsovie, quand tu es qualifié, tu peux trouver des emplois aussi bien payés que dans les grandes villes françaises. C'est vachement intéressant. Comment le pays en est-il arrivé à ce résultat, hein, quand même. Comme toujours en économie, grâce à un mélange d'avantages divers. D'abord, des investissements étrangers massifs, dont l'afflux a commencé dès le début des années 90 et qui ne s'est pas tari depuis. On va voir pourquoi, d'ailleurs, à l'étranger, on a investi en Pologne, puisqu'on n'investit pas comme ça par hasard. Il n'y a jamais eu de limite aux investissements étrangers. Le pays est encore extrêmement ouvert aujourd'hui, explique le président des conseillers du commerce extérieur français pour le pays, Jean Rossi. Le tapis rouge pour les investisseurs étrangers est déroulé en permanence, dit le président du MEDEF polonais. Il n'y a pas une dumping, vous savez, social ou fiscal, des différents gouvernements polonais. Les subventions publiques ont été beaucoup plus massives, par exemple en Slovaquie. Et la fiscalité polonaise n'est pas particulièrement avantageuse. L'impôt sur les sociétés, donc l'IS, à 19% est en effet dans la moyenne de l'Europe centrale et orientale, supérieure au taux en vigueur en Hongrie, par exemple, ou encore dans certains pays baltes. Quelqu'un me disait, c'est quoi le dumping ? Dumping, c'est quand tu crées une concurrence déloyale en baissant les standards de la protection sociale ou des taux d'imposition. Voilà, pour faire venir l'argent dans ton pays au détriment des autres, ça s'appelle le dumping. C'est pas très bien. Le cadre fiscal est stable, ça, il change pas tout le temps, ça c'est important, quand tu es investisseur étranger, de même que le droit des sociétés. La Pologne présente un autre avantage important par rapport aux anciens pays de l'Est, sa taille, 38 millions d'habitants, on l'a dit, loin devant la République tchèque, 10 millions d'habitants, la Hongrie, moins de 10 millions, la Slovaquie, 5 millions, sans parler des pays baltes, plus petits. Même la Roumanie, avec 19 millions d'habitants, est nettement derrière. Ce poids démographique, c'est crucial pour les entreprises, c'est beaucoup plus facile pour faire progresser une affaire ici que dans les pays voisins. Pourquoi ? Ben parce que quand tu as un bassin de population important, le marché intérieur, il est important. quand tu vends des petits trucs, des petites tasses, des petites souris, que sais-je moi, des que sais-je, eh bien, si le marché intérieur est important, tu dépends moins de l'exportation. Ou des bagnoles, bien sûr. L'importance du marché intérieur permet une croissance plus équilibrée chez les voisins. L'économie est certes fortement tirée par le commerce extérieur, mais moins qu'en Lituanie, moins qu'en République tchèque, moins qu'en Hongrie. Et donc, la Pologne est moins affectée par les crises économiques extérieures. L'économie est aussi plus diversifiée que chez ses voisins. Agroalimentaire, manufacture de meubles, électroménager, services informatiques, distribution, transport routier. Tu vois, il y a Rasoir qui dit, c'est marrant que tu dises ça, j'ai reçu une offre d'emploi pour une boîte en Pologne récemment, studio de jeux vidéo. Fonce, fonce. Enfin, c'est ce que semblent dire les échos, quoi. Alors, on a donc un bassin de population important, il y a eu beaucoup d'investissements étrangers. Autre atout, le coût, la qualité de la main-d'œuvre. Nos coûts salariaux ont beaucoup augmenté, mais ils restent bas, surtout par rapport à l'Allemagne. Voilà. D'ailleurs, l'article dit qu'il y a des relations économiques qui sont très très fortes avec l'Allemagne aussi, ce qui est aussi un avantage. Sur la question des salaires, est-ce que la Pologne est encore un pays à bas salaire? Sans doute plus pour très longtemps, puisque le SMIC polonais va passer en janvier à 937 €. 937 €. Bah non, il y a Diesel qui dit 810 € le salaire médian. Bah là, ils disent 937 € en janvier, le salaire minimum, le SMIC. C'est beaucoup moins qu'en France, on est à 1 709 € brut, mais la Pologne est maintenant au même niveau que le Portugal, 956 €. Très loin, plus très loin de l'Espagne, qui est en salaire minimum à 1 260 €. 937 € brut, hein, a priori. Brut. Brut. Bah oui, le salaire médian, c'est différent du salaire minimum, oui. Bah oui, bien sûr. Bien sûr. Quant au salaire moyen, mais le salaire médian, il doit être au-dessus du salaire minimum. C'est logique. Le salaire médian, c'est, vous prenez une ligne, le salaire médian, c'est la moitié de la population active gagne plus. C'est pas le salaire moyen. Le salaire moyen, c'est que tu prends tous les salaires et tu fais la moyenne. Le salaire médian, c'est la moitié de la population active, elle est au-dessus de ce salaire, la moitié, elle est en dessous. Logiquement, le salaire minimum, il est en dessous du salaire médian. Je suis pas super matheux économiste, mais ça me paraît logique. Le salaire moyen, bah tiens, le voilà, il a progressé, atteignant aujourd'hui 1 400 € brut. On a le chiffre. Les investisseurs étrangers ne sont plus seulement attirés par le niveau des salaires, mais aussi par la qualité de la main-d'œuvre. L'une des faiblesses du pays, quand même, est son mix énergétique. La production d'électricité dépend à près de 70% du charbon. Il n'y a pas d'énergie nucléaire pour l'instant. Et ça pourrait commencer à dissuader certaines industries qui veulent réduire leur empreinte carbone. Alors c'est bien beau d'investir en Pologne, mais si c'est pour avoir une industrie frappée d'une empreinte carbone lourde, qui peut gêner les consommateurs, voire l'exportation, ça peut devenir un désavantage. Autre point noir du pays, commun à l'ensemble de l'Europe orientale, la démographie, puisque la population polonaise recule, les Polonais ne font pas assez d'enfants pour... la population se maintienne et le taux de chômage est déjà très très bas. Du coup, vous avez des tensions sur le marché du travail de plus en plus fortes. L'économie polonaise manque de bras, si jamais vous êtes tenté. Le gouvernement a. Donc, on a une population qui recule. On a des tensions sur le marché du travail très fortes. On a un chômage qui est très bas. Or, le gouvernement affiche une farouche hostilité à l'immigration, qui peut être une solution quand on veut... Quand on est en tension sur le marché du travail, la Pologne, a priori, dit non. Depuis quelques années, le principal danger pour l'économie était politique. C'est pas un salaire. Pardon, je me prends le chou avec sur le salaire médian. Il y a Jude Abricot qui dit que le salaire médian n'est pas forcément supérieur au salaire minimum, car il faut prendre en compte les chômeurs, les temps partiels et les stagiaires. Mais le chômeur ne touche pas un salaire. Il touche une indemnité. Le stagiaire, il touche pas un salaire, il touche une indemnité de stage. Donc, on va pas. Enfin, normalement, je vois pas comment un économiste pourrait rentrer une indemnité de chômage dans un salaire médian. On parle pas de revenus. Revenus, il faudrait compter tout, allocation, indemnité chômage, revenus du foncier si t'es un gros propriétaire. Donc, on parle de salaire, hein, les mots sont importants. Désolé! J'ai encore gagné! Mais qui est tout seul. Oh, putain, je suis grave, je suis con. Je suis grave. Je suis vraiment très grave. Donc, parlons plus sérieusement. Autre point noir du pays, le côté politique. L'affrontement entre le gouvernement nationaliste du PIS et les institutions européennes était de plus en plus musclé. Bruxelles a bloqué l'envoi de fonds structurels et du plan de relance post-Covid tant que Varsovie ne prendra pas de mesures pour garantir l'indépendance du système judiciaire. La victoire de l'opposition pourrait régler ce problème, on vient d'en parler, car ces fonds européens sont cruciaux à l'échelle de l'économie polonaise. Vous saviez-vous que la Pologne était en aussi bonne forme économique ? Bonne journée, Obérix. C'est fou, hein ? Moi non plus. C'est incroyable. Non, je vois beaucoup de noms. Hein. Voilà. Startup Nation, un peu. Un peu en mode charbon, quand même. Hein. J'ai vécu un an, me dit Noart. Et tout à l'heure, on posait la question au début du stream, il y a des gens qui vivent en Pologne, là, et qui nous disaient, en fait, c'est cool, la Pologne. Hein. Voilà. Voilà, j'y vis depuis 3 ans, à Varsovie, me dit Eugé Gréco. Toutes les grandes entreprises y sont. Pays dynamique d'Europe centrale, nouvelle technologie, Lazareth, mais effectivement charbon. Ah ouais, ça y est, cyberpunk. C'est un studio polonais, ça. C'est vrai, ça. Ah, il y a l'Esteban qui dit, moi j'ai une connaissance très nation un petit peu à droite, c'est ça, qui s'est exilé là-bas, il doit pas être très content pour le PIS. Ah, bah tu lui envoies un petit message. Ah, il y a Matlumat Mermont 74 qui, vous savez, était la personne qui nous disait tout à l'heure quelle était ma couleur idéologique, qui me demande si je suis présentateur. Vous savez, je crois qu'il n'y a pas de bonne mauvaise situation. Moi j'ai la chance de vivre de ma passion. Voilà, je me lève le matin et l'actualité m'appelle, m'ouvre les bras. C'est comme un doux oreiller de lumière, finalement, sur lequel je repose ma tête dès le lever du jour, finalement. Et puis il y a les rencontres aussi, la qualité des rencontres, comme ici, comme le moment que je vis avec vous là maintenant, par exemple, là, à l'instant, qui n'était pas ni déterminé, ni calculé, ni anticipé, finalement. Et donc voilà, moi je dis oui à la vie, je dis oui à l'amour, je dis oui au travail aussi, voilà. Alors est-ce que je suis présentateur ? Oui, alors on peut se définir ainsi, mais finalement est-ce qu'il faut se définir ? Présentateur, animateur, journaliste, streamer, youtubeur, tiktoker, je suis aussi, instagrammeur, je commence à, voilà, un peu, père de famille, sportif aussi un petit peu, voilà, gourmand, voilà, mais d'abord être humain, voilà. Je suis français, mais je suis un peu polonais aussi quelque part, breton, mais britannique. Voilà, j'adore la cuisine britannique. Voilà, j'aime le Brésil. J'aime la chaleur, j'aime la douceur. Voilà. je pourrais dire des conneries, en fait. Ouais. Voilà, je suis un peu tout ça. Mais on est tous un peu multiples comme ça, comme des. Comprenez, hein, nous ne sommes pas un. Nous sommes à la fois un et tous à la fois. Voilà, tous ensemble. Voilà, tous ensemble, tous ensemble. Tous ensemble, tous ensemble. Hop. Vous voyez? Donc voilà, l'important c'est le jeu, et c'est le jeu qui joue au jeu et à la vie, parce que la vie est un jeu, et en même temps avec des règles, comme un jeu d'ailleurs, mais un jeu sérieux, un serious game, dit-on dans l'univers de l'industrie vidéoludique. Voilà, le jeu est un nous quelque part, de même que le jeu est un nous, puisqu'on joue souvent ensemble, en réseau. Voilà. En LAN, disaient les anciens. Oui. Voilà. Donc, c'est une question difficile. J'ai essayé de répondre à ta question. Donc, je suis. Ouais. Allez, les amis, dernier article. quelqu'un vient d'écrire. Comme Francis, la LAN. Un petit article sur la difficile passe de Disney. Ouais, Disney va pas très 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 fort en ce moment. Et puis après, on se fait un petit horoscope. Et après, un petit raid. Et après, je vais aller courir. Tiens, on parlait de sport, je vais aller courir. Et après, j'ai une petite visio à 14h pour le travail. Et après, j'ai un spectacle de Solal avec ses petits camarades en petite section. Ça va être formidable. Pour ses 100 ans, je reprends un accent grave puisque... ça ne va pas très très fort. Disney est dans une passe difficile. Le groupe Disney reste un mastodonte de l'entertainment avec les plus belles franchises de l'industrie, mais entre le recul de la télé traditionnelle et les difficultés du streaming et aussi une panne créative, encore une fois la panne ça arrive, eh bien le géant californien traverse une période houleuse. Cette semaine Disney fête ses 100 ans. Bon anniversaire Disney. Il reste un mastodonte des médias dont tout le monde envie les propriétés intellectuelles. Voilà. Mais le vénérable groupe, fondé par Walt Disney au début des années 20, traverse une mauvaise passe. Ahsoka est pas mal, dit Idris. Ouais, ça va en vrai. Ça va. C'est pas non plus. Hein. Petite série sur Netflix en ce moment. La télévision traditionnelle perd du terrain. Les pertes liées au streaming sont toujours aussi importantes. Ces derniers films, vous le savez, à grand budget, ont fait flop. Hein, les derniers Disney, là, ça n'a pas marché très très fort. Hein. Wall Street commence à s'impatienter. Vous avez l'action Disney qui a perdu plus de la moitié de sa valeur depuis 2021. Ah, il y a quelqu'un qui me dit que la série Loki est très bonne. Ah ben du coup, j'avais pas envie de la regarder. Je fais une petite pause. MTPKTTV me dit que la série Loki, qui est sur Disney, je crois, Disney, elle est bonne. Vous confirmez ou pas? Cardoc me dit j'ai pas aimé du tout. Ah. Masterclass me dit casser personne. Top. C'est bien si tu n'aimes rien comprendre, me dit Blacky Nounours. J'aime beaucoup, incroyable, super, c'est oui, bof, yep, oui, oui, excellent, c'est gentil, masterclass, très bien, génial, incroyable. Ah, ah bah tu vois, je n'ai pas du tout attiré. Bah, je vais aller voir. Donc l'action Disney se casse la margoulette. Bob Iger, revenu aux commandes de Disney il y a près d'un an, semble en mauvaise posture. Au bout d'un an, le patron serait épuisé, serait dépassé par la tâche à accomplir, selon l'agence Bloomberg qui cite des sources anonymes. Lors de son départ en février 2020, pourtant, Bob Iger pouvait se flatter d'avoir transformé Disney. Les rachats de Pixar, de Marvel Studios, de Lucasfilm, de la 21 First Century Fox lui ont permis de mettre la main sur de précieuses franchises, les Avengers, Star Wars, Avatar. La création de la plateforme de streaming Disney+ paraît visionnaire, sa valeur boursière quadruple et l'avenir semble rose pour l'empire californien. Mais en près de 4 ans, la situation a bien changé. Les moteurs créatifs sont en panne. Plusieurs films à grand budget présentés en fanfare par Disney ont perdu de l'argent. Le Manoir Hanté, inspiré de l'attraction du même nom. Je ne savais même pas que Disney avait sorti un film, Le Manoir Hanté. Attendez, je vais voir ça. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Trailer. Vous avez entendu parler de ce film, ça? Ouais, 21 First Century Fox, je sais, ouais, désolé, j'ai honte. Je me suis trompé là-dessus. Tu nous l'as présenté, Samuel? Non, 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 non. Je voulais présenter. Non, 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 non. Ah non, tu confonds avec un autre streamer. Tu confonds avec un autre streamer. Non, 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 non. Tu confonds avec Jean Massier. Tu te trompes de beau gosse. Le Manoir Hanté, trailer. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? C'est tout? Ah, d'accord. J'ai cru que c'était fini.
Je dois vous prévenir avant que vous n'entriez dans le manoir. Ça pourrait changer le cours de votre vie tout entière.
J'ai pas peur de quelques fantômes.
Vous dites ça maintenant.
Je vous ai jamais diffusé cette bande-annonce. Jamais.
Ce manoir est étrange.
Ces fantômes n'ont absolument pas l'intention de s'en aller.
Dans tous les coins de cette maison.
Seigneur, fiche-nous la paix. Il y a tellement de gens ignobles dans le monde, c'est eux qu'il faut hanter.
Amen.
Moi, j'aime bien les surprises.
Quelqu'un d'autre que moi voit ça?
J'espère que toi aussi.
On doit se battre, que ça nous plaise ou non.
Sinon, on sera tous coincés ici pour l'éternité.
Bon, il va falloir qu'on pose des limites.
Ce manoir regorge d'âmes perdues, mais il y a toujours de la place. Pour une de plus.
Vous
autrefois, des gens dînaient ici.
Je vous l'avais dit qu'elle était douée.
Non, c'est une salle à manger.
Mon ami a été agressé.
Il était grand, avec des cheveux qui sortaient d'une sorte de...
Oui, d'un...
Haute forme.
D'un haute forme.
Oui, il avait, oui.
Comme un haute forme.
Ouais, je m'attendais à ce qu'il en sorte un lapin.
Les yeux.
Il était un peu... enfoncé.
Enfoncé,
oui,
très
comme
profond.
Un raton laveur, mais qui serait sur la défensive. Et il était souriant, genre... ouais, comme ça.
Un truc comme
exactement.
Ça.
Exactement.
Il ressemblerait à ça.
Wow, vous avez fait ça à l'instant, là.
C'est pas mal. Hein, ça a l'air super. C'est quoi ce film? Ah, franchement, moi je veux pas être. Je suis très bon public. En vrai, un rien me. Wouhou! Mais là. Oh la vache! Ah ouais, tu m'étonnes que. D'accord. Quelqu'un a vu ce film? N'ayez pas honte. Ça n'est pas sale. Je l'ai vu, c'est vraiment pas ouf. Ok. Le film est bien, mais la VF est naze. C'est pas ouf. Je l'ai vu, c'est pas ouf. Je l'ai vu, il est génial, me dit Mickey Wayne. Mon cousin, il l'a vu, il a dit que c'était bien. Blacky Nounours, ça n'est pas une source, ton cousin. Cyril, c'est pas sale, les jeunes doivent pas avoir la ref. C'est une ref de vieux. Ok. Ouais, ça a pas l'air... Comment ça, j'ai dormi? Alexandra qui me dit que j'ai ronflé. Non, pas du tout. J'étais en train de regarder cette magnifique bande-annonce. Pas du tout. Alors, qu'est-ce qu'on a donc? Le manoir hanté, donc inspiré de l'attraction du même nom, a flopé. Indiana Jones, le dernier Indiana Jones, a flopé. Je sais pas si certains l'ont vu. Moi, non. On avait déjà... Là, je me rappelle, on a vu la bande-annonce. Je m'étais pas endormi, mais presque quand même. Hein. Vous l'avez vu, Indiana Jones, le dernier? Oui, mais il est bien pour le coup. Vu et pas fou. Vu bien aimé pour ma part. J'ai emmené les enfants, me dit Sadine Lab, j'ai bien aimé le popcorn. Pas foufou. Indiana Jones à l'EHPAD. Quelle tristesse, me dit Defecator. Cette Indiana Jones 5. Voilà. C'est la fin définitive de mon enfance. Ok. Bon, ok. Ça n'a pas l'air fou quand même. Et Disney, ça va pas fort. Hein. Attendez, on va essayer peut-être trouver un film qui a un peu marché quand même. Enfin, le dernier Marvel, Ant-Man et la guêpe, Quantumania. Quantumania. Est loin d'avoir remporté le même succès que d'autres films de la série Marvel. Bon, c'est pareil, ça, j'ai pas eu envie de regarder non plus. Ouais. Bon, alors effectivement, mauvaise passe. Pour traverser cette mauvaise passe, Disney ne peut plus se reposer sur ses chaînes, donc les films marchent moins. Les chaînes de télé, parce qu'il y a des chaînes Disney, marchent moins bien. Le temps passé par les Américains devant la télévision ne cesse de décliner, hein, remplacé par celui consacré aux réseaux sociaux, TikTok, YouTube en tête, ainsi qu'aux plateformes de streaming. Les revenus publicitaires liés à cette activité s'effondrent. Les foyers sont de plus en plus nombreux à résilier leur abonnement. Là, on parle de la télé, on va dire, classique. Les déboires de la télévision classique sont d'autant plus inquiétants pour Disney que le streaming ne peut pas combler le vide laissé par ses comptes. En 6 mois, le groupe a quand même perdu la bagatelle d'1,1 milliard à cause de sa plateforme de streaming. Cet été, Bob Iger a choisi d'ailleurs d'augmenter le prix, vous le savez peut-être si vous êtes sur Disney+, d'un abonnement sans pub, sacrifiant donc la croissance du nombre d'abonnés à la profitabilité. Depuis un an, le nombre d'abonnés à Disney+ recule nettement. Quelqu'un me dit Disney+ n'est pas rentable. Non, Disney+ perd 1 milliard tous les 6 mois. Depuis un an, le nombre d'abonnés à Disney+ recule nettement. Il dépasse les 160 millions fin 2022. Ça, c'était fin 2022, mais les hausses de prix successives ont fait fuir une partie des utilisateurs. Seule lueur d'espoir, les parcs d'attractions et les croisières continuent d'attirer les visiteurs. Les profits liés aux parcs, aux autres expériences Disney, aux profits ont augmenté de 13% au dernier trimestre, notamment en raison de l'influx dans les parcs étrangers, en Europe et en Asie. Ouais. C'est intéressant d'ailleurs parce que je crois, les plateformes de streaming, les Disney+, les Amazon, Netflix, je crois, ne gagnent pas beaucoup d'argent ou en perdent, voilà, en raison d'investissements énormes pour séduire les abonnés, pour qu'ils viennent et pour qu'ils restent, parce qu'en plus d'abonnés, ils ont pris certains l'habitude de s'abonner et puis de se désabonner dès que c'était plus intéressant et de revenir s'abonner quand il y avait une série sympa. Voilà. Donc ça ne fait pas les affaires des studios, ça. Énormément d'investissements qui ont fragilisé d'ailleurs les télévisions historiques en France, les TF1, les M6, les France 2, les France 3, ont fragilisé le modèle économique de ces chaînes. On en parlait avec le président de l'ARCOM hier soir sur cette chaîne. Voilà. Alors qu'en fait, ces plateformes de streaming, Disney+, et autres, eux-mêmes sont en difficulté financière. Quoi. C'est intéressant. Hein, ouais. Et il y a Banana Be Good qui dit en même temps, comment tu rentabilises des séries à 1 milliard de budget? Il faut juste qu'ils se calment et produisent des choses sympas sans la débauche de moyens. Il y a Alexandra qui affirme que je ronflais tout à l'heure, que j'ai fait une sieste pendant la bande-annonce. Je ne fais jamais ça. Nous sommes sur un stream de professionnels. Évidemment que ça n'est pas possible. Inutile d'aller voir le replay. Alexandra, c'est une blague. Alexandra, c'est une blague. Je fais une blague. Ouais. Comme le dit John, c'est un peu le modèle standard dans l'économie numérique. Tu t'endettes à mort et tu pries pour que ça devienne rentable un jour. Bah oui, il y a plein d'exemples. Uber de la tartignole. Uber, peut-être Uber plutôt. La petite sirène. Vous l'avez vu ou pas? Ah oui, parce que l'article disait que la petite sirène avait eu du mal à trouver son public. Hubert Moulisseur de la Batte, c'est ça. Une petite sirène, pas ouf. Ah, oh, ça vient trop mignon pourtant, les bandes annonces. C'était pas bien? Pas ouf. Ah, oh, zut. Oh là, ça me dégoûte. Ça avait l'air sympa ce film pourtant. Ok, dit. Gardien est-il, mais hyper réchauffé. Sympa, mais trop long. Grave bien la petite sirène avec une copine, me dit Gaspard. Bien aimé, mais j'ai pas regardé l'original. Temps perdu pour Gaijin. Oh, la petite sirène. Oh, dommage, j'avais envie de voir ça, moi. Ok. Désolé, je dors, je ronfle, je baille. Je suis en pleine forme. Replay à partir de 13h du président de l'ARCOM, on a mis sur la chaîne YouTube Horoscope. En faisant mine de dormir, c'est vous que j'ai endormi. Je suis une machine, je suis trop fort. Voilà. En fait, il s'agissait de vous endormir, de ne pas vous donner, on va voir le Parisien, de ne pas vous donner cet indice crucial sur le fait que voilà, l'horoscope allait arriver. On a une tradition ici enfin de stream de revue de presse. On va lire l'horoscope, ça n'a aucun sens. Mais on aime bien ça. Hop, le voilà l'horoscope. Avec un concours de rapidité qui, je crois, est gagné par suspense, roulement de tambour. Et on refait un petit tour. Le grand gagnant ou la grande gagnante, je ne sais pas, du concours de rapidité de l'horoscope est El Fabinho avec le signe Sagittaire. Sagittaire, vous avez gagné. Mais, comme je suis un mec sympa et que je vais zoomer ici, en zoomant sur Sagittaire, les Scorpions, les Capricornes, les Verseaux, les Poissons, eh bien vous pouvez lire votre signe, c'est ça, je ne suis qu'amour. Sagittaire, cœur, le plus important, le reste on s'en fout, cœur ça vous dit, vous êtes enfin prêt. C'est le moment ou jamais, pour prendre un nouveau départ. Si vous êtes célibataire, c'est cool. Si vous êtes en couple, c'est pas cool pour l'autre. T'imagines ? Imagine, tu me regardes à la maison, t'es avec un Sagittaire ou t'es avec une Sagittaire. Tu viens de lire l'horoscope de Sagittaire et tu comprends que ton plus un est prêt pour un nouveau départ. C'est pas bon ? C'est pas bon. Si t'es célibataire, t'es Sagittaire, c'est bien, c'est bien. Ousmane, merci pour le Prime, merci beaucoup. Nifo, merci beaucoup pour l'abonnement, merci, c'est adorable. Bon anniversaire. Ah oui, Satan, vu que c'était le bon anniversaire à Bruce Toussaint et à Eminem. Ouais, bon. Bon anniversaire, Eminem. Réussite. Voilà une bonne période pour les contacts professionnels. Eh, hey, ça va, Sagittaire. Hein? Bonne période pour les contacts professionnels. Ok. Ouais, Eminem, 51 ans. Vache. Incroyable. Sagittaire toujours forme, vous avez besoin de décompresser. Bon. C'est pas mal ça. Voilà, pas mal. Et puis baromètre de l'amour, ça j'adore ça. Baromètre de l'amour tout en bas. Balance, les balances c'est pour vous. Vous savourez chaque instant de bonheur. Hey, les balances. Vegas nous demande si c'est prouvé scientifiquement l'horoscope. Bien sûr que c'est scientifique. Bien sûr, c'est toujours d'une précision inouïe. Capricorne, baromètre de l'amour. Les planètes améliorent votre quotidien amoureux. Bon, en vrai, ça va. Eh, je vais lire mon signe. Eh bon, eh, pourquoi c'est que les autres? Allez, comme ça, Bélier, Cancer, Gémeaux, vous pouvez lire le vôtre. Taureau, c'est moi, ça, Taureau. Cœur, vous serez plus confiant et la chance vous sourira. Bon, moi, j'avoue que de ce côté-là, j'ai beaucoup de chance. J'ai tellement de la chance d'avoir rencontré la personne qui partage ma vie, impression d'avoir gagné l'auto tous les jours. C'est très, très étrange comme sentiment. Réussite, vous travaillerez seul. Oui, ben, oui. Et viendrez à bout d'une tâche ardue. Il y a du pain sur la planche, oui. Si vous fuyez l'agitation et restez concentré. Ah, il faut que je fuie l'agitation. Ok. Forme, besoin de repos. Oui, bon, ben, ça, c'est pas nouveau. Ok, les amis, merci. Il y a l'Aster qui dit « On a compris que tu kiffes ta femme, Colombo. » C'est bon ça. C'est bon ça. On a compris que tu kiffes ta femme Colombo. Ma femme me dit souvent. C'est bon ça. C'est pas mal, j'avoue. Vous avez le droit de vous moquer du streamer. Vous n'avez pas le droit de vous moquer des autres viewers ou des gens en général, mais vous avez le droit de vous moquer du streamer, ça. C'est sans souci. Sans souci. Alors, on va faire un petit raid. Bim. Vous me proposez dans le chat maintenant, avec vos petits doigts. Si vous n'avez pas de doigts, vous utilisez vos coudes. Hein. Vous me tapez des noms de streamers, de streameuses qui sont en live actuellement et on fait un raid. Voilà. Hein, ok ? Ok, on fait ça ? Donc, je vous mets la petite musique qu'on avait commencé à écouter là. Un peu... Waouh ! Je vais baisser un peu là. Qui envoie un petit peu du bois là. Et dans 2 minutes chrono, mais pas une seconde de plus, on raid avec une proposition que vous me faites. Là, maintenant, tout de suite, on se retrouve en 2 minutes. Restez avec nous, c'est toujours des moments sympas. Les raids. On va où alors ? Can't forget. Take a quick look at some of your dreams. J'ai trouvé. Qu'elle est douce cette musique, est-ce que c'est agréable? J'ai trouvé la destination. C'est une streameuse aujourd'hui qui a une petite communauté sympa déjà. Voilà. 226 viewers, on est sur du gaming. Je vous charge ça. Voilà. Et vous allez vous retrouver d'un claquement de doigts, c'est magique, sur la chaîne de KO. KO SVMD pour l'adresse précise. Voilà, ça charge. Je vous retrouve demain matin, 8h30, 9h dans ces eaux-là. Pour lire la presse, même mercredi, on se retrouve jeudi matin aussi, on se retrouve vendredi matin, on est foufou, on se retrouve vendredi soir pour l'Hebdo Étienne avec 4 invités, on va se régaler sur l'actu de la semaine, on va se retrouver dimanche soir pour Ça me plaît, bien sûr, on découvrira, enfin je découvrirai, je ne comprends rien à cet univers, l'univers de Minecraft. Merci, je me suis régalé avec vous, vraiment. Merci de votre participation, merci du soutien, merci des subs, c'est grâce à vous que je peux passer du temps ici. On se retrouve demain matin et c'est parti. Bonne journée.